il y a eu Seji de Ultramagnétique, Marley Marl, après il y a eu Primo. Mm-hmm. Toi, bon, il y a eu quand même beaucoup de beatmakers qui ont marqué leur temps et qui ont fait du hip-hop pur et dur. JD a contourné quelque chose et il l'a amené. Et ces mecs-là, comme Pete Rock ou même Primo, se sont dit, mais d'où il sort ce mec?
Ah, c'est ça.
D'où il sort?
Le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous. Ça va, Daz?
Ça va et toi, Salman? Bonne année.
Attends. Ouais, si. Bonne année, on peut le dire, c'est bon.
Parce qu'on l'avait dit la dernière fois. C'était la dernière.
C'était 31, c'était vraiment le jour du réveillon, tu vois, qu'on accompagnait les gens et tout. Ouais. D'ailleurs, on vous remercie ceux qui ont sur YouTube mis des commentaires, etc. Genre en mode meilleure nouvelle de l'année, ça va accompagner mon 31 et tout. Tu vois, le jour même, les gens étaient là.
Il y a aussi des gens qui étaient en mode ouais, la musique que vous recommandez, franchement, c'est pas vraiment de la musique.
C'est vrai qu'on a eu quelques aigris. Non, un aigri.
Il était incroyable. Il était incroyable.
Que du love pour lui.
Ouais. Ouais, vous recommandez des trucs, c'est pas du son. Même le truc des années 70, c'est pas du son.
C'est de l'IA.
C'est de l'IA.
Daz, en parlant de musique.
Oui.
De bonne musique.
Oh.
Aujourd'hui, on va parler d'un mythe dans cet épisode.
Est-ce qu'on déjà on peut dire que pour les gens qui démarrent cette émission, c'est une émission rap. Restez.
C'est vrai. Alors, voilà. Alors je tiens à dire, on a eu quelques reproches en mode ah, ces derniers temps, vous avez quand même beaucoup parlé de rap. C'est pas faux. On parlera d'autres choses aussi. Ça va arriver très prochainement. On essaie de varier les sujets.
Alors c'est vrai qu'on a aussi parlé de l'édition et des droits dans la musique.
Oui.
Et
ne parlons pas de ça.
On a eu notre premier drama.
Ça sent encore le souffle Instagram.
Dans cette pièce.
C'était un peu rude.
C'était incroyable.
Pendant les vacances, je peux te dire que j'ai modéré pendant les vacances. Je me suis retrouvé à enlever un commentaire de Booba. Ouais. J'ai modéré Booba, les amis.
Mais si Booba
nous
a trouvé, ça veut dire que ça y est, on est mainstream.
Écoute, faut croire.
Donc là, c'est bien parce qu'on va repartir un peu dans la niche.
Ouais.
Est-ce qu'on peut parler de niche pour l'artiste dont on va évoquer la carrière aujourd'hui?
Ah, totalement.
Ouais.
Ah
ouais.
Totalement.
Parce qu'il a quand même impacté beaucoup la musique moderne.
Il a impacté. On a toujours pas dit de qui on parlait. À un certain moment, il a impacté. Tout au démarrage, il a rien impacté du tout.
De son vivant, c'était un artiste de niche en tout cas. Ouais.
Bon, Daz, il faut qu'on le dise, parce qu'effectivement, artiste discret, artiste rap.
Artiste décédé aussi.
Mais décédé, absolument. Il y a 20 ans, à l'âge de 32 ans.
32 ans, ouais.
C'est vraiment 20 ans quasi. Enfin, on est
dans, c'est la 20e année.
C'était en 2006.
Ouais.
C'est J.D. là. J.D. là. On va essayer de lui rendre hommage aujourd'hui parce que, oui, quand on dit légende du rap, c'est vrai, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est un artiste, je sais pas, tu vois, si on met par exemple ce morceau, vous allez voir, vous reconnaissez certainement. Bon, c'est pas J.D. là, mais est-ce que ce morceau aurait existé sans J.D. là?
Non.
Je suis pas sûr. Est-ce que ce morceau de D'Angelo, même tout l'album Voodoo, aurait existé sans J.D. là? Je pense pas. Pas sous cette forme, en tout cas.
Repose un peu aussi, D'Angelo.
Ouais, REP.
Absolument.
Hein. L'année dernière. On est sur un rôle incroyable, hein, quand même, en termes de disparition d'artistes majeurs, de mon point de vue. Ces deux dernières années, là, ça... Calbo.
Ouais. Repose un peu Calbo, ouais. Juste là, en début d'année, là, le 4 janvier dernier. Ouais.
Franchement...
Ce qui est dingue avec J.D. là, effectivement, on perd beaucoup de gens. On a perdu beaucoup trop tôt, il y a longtemps déjà, J.D. là. Mm. Mais ce qui est fou, c'est que même après son décès, encore aujourd'hui, de nombreux artistes évoquent sa mémoire, son œuvre. Je sais pas, on peut prendre des gens comme Erykah Badu, comme Flea des Red Hot Chili Peppers, comme Hiatus Coyote, comme en plus rap, Kanye West, Pharrell Williams, etc.
En
tous ces gens...
Respect.
Qui donc, pardon?
Fiddler.
Ah bah bien sûr, qui l'a presque lancé au début, voilà. En tout cas qui était là très vite.
Son mentor.
Et voilà, ce qui est passionnant, c'est que oui, légende du rap, mais en fait légende de la musique tout court, qui a influencé plein d'univers.
Et pourtant, Fab le disait, et d'ailleurs on va peut-être présenter nos invités évidemment.
Absolument.
Et pourtant, artiste de niche.
C'est vrai.
Comme
bon,
quoi.
On a 2 heures devant nous pour comprendre justement Daz, comment un artiste de niche est devenu si important, en quoi il est si important. Et ce qu'on va faire, c'est, contrairement à la coutume, comme Jean vient déjà pas mal parler, on va peut-être laisser chacun se présenter rapidement.
Ouais. Allez, j'espère que vous aviez prévu.
Ouais, au pire, on complète, mais Raph, bon, on te connaît dans l'équipe, mais rapidement.
Salut tout le monde, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Oui, donc Raphaël Dacroze, journaliste pour Monte-le-Son depuis maintenant presque 2 ans. Je fais des vidéos tout courtes sur des filiations musicales, notamment liées au rap, au R&B ou à des musiques qui sont proches. Journaliste pour l'ABCDR du son depuis 15 ans, et puis j'ai participé à d'autres choses. Le code review sur Apple Music pendant 3 ans. J'ai été documentaliste sur le docu DJ Mehdi. J'ai participé à des bouquins collectifs parfois. Voilà, je fais plein de petites choses de folle vie de journaliste indépendant dans la musique, quoi. Voilà.
Et on te retrouve depuis peu sur Twitch.
Et oui, je me suis lancé sur Twitch tout à fait pour faire de la critique musicale sur des sorties actuelles ou parfois de parler d'albums anniversaires, par exemple. J'ai par exemple parlé des 20 ans d'un album qu'il connaît bien, puisque c'était ses anciens comparses de La Caution, par exemple. J'avais parlé de Peine de mort, Arc-en-ciel pour Daltonien il y a quelques mois de ça. Tu
parles
de
belles choses. Hein.
Évidemment.
Tu suis Fab, DJ Fab, tu suis ce qu'a dit.
Non, mais je connais, je sais qui c'est. Et voilà, et je sais ce qu'il fait. Et heureusement qu'il y a des gens encore comme ça qui parlent bien de cette musique, parce que ça devient de plus en plus rare.
Bon, je précise quand même, Raph, que si t'es avec nous, c'est parce que, bon, évidemment, tu admires le travail de Jay Dilla, tu connais bien son carrière, son parcours, et tu as même d'ailleurs lu, et tu l'as amené avec toi, c'est récent, enfin, tu l'as lu récemment.
Je l'ai lu l'année dernière, on me l'a offert pour mon anniversaire il y a à peu près un an, et je l'ai lu tout l'été dernier, donc en fait, ça tombait plutôt bien.
Et ce livre, c'est Dilla Time, de Dan Charnas, alors qui malheureusement n'est pas traduit en français,
tout à fait.
On peut uniquement le trouver en anglais, mais qui est un peu le livre définitif, à la fois sur le parcours personnel, mais aussi sur l'œuvre et l'analyse de l'œuvre de Dilla.
Complètement, ouais. C'est une vraie enquête journalistique, en fait, avec des témoignages de tous ses proches, soit familiales, soit dans la musique. Et puis une analyse aussi, voilà, il y a vraiment des chapitres consacrés à de l'analyse presque musicologique, quoi, en s'appuyant sur presque des, même pas presque d'ailleurs, sur des travaux universitaires, puisque le travail de Dilla a été à ce point important que des universitaires se sont intéressés à ce qu'il a fait. Et donc, il se base aussi sur toutes ces thèses et tous ces travaux-là pour un peu étayer, justement, des choses sur ce qu'a fait musicalement Jay Dilla pendant sa carrière, quoi.
On est aussi avec Mono, Monomythe.
Bonjour, ça merci va, de l'invitation, oui. Bienvenue en 2026.
Absolument. On te connaît bien dans l'émission, puisque tu étais venu nous voir déjà.
Et oui, papoter quelques heures.
Oui,
ça aurait duré 4 heures si je m'étais. C'était pas arrêté, voilà.
Mais c'était bien, j'ai des bons souvenirs de cette époque.
Ouais, moi aussi, du coup, Monomythe, beatmaker, producteur, de la direction artistique un peu ici, ouais. Et là. Et donc voilà, artiste beatmaker depuis un moment à Paris.
Bah, ce qu'on peut dire, c'est que on t'a vu beaucoup à une époque aux côtés de Jazzy Bass, t'as prod aussi pour Alpha One, Prince Wally.
C'est ça.
T'accompagnes aussi plein d'artistes en tant qu'instrumentiste.
Ouais.
Je pense à Bonnie Banane.
Ouais.
Et puis on te retrouve
qu'on a reçu aussi,
Bonnie. Et puis on peut te retrouver en solo, à la fois sous le nom de Monomythe ou avec le groupe de jazz Fungi aussi.
Fungi, ouais, Fungi. C'est ça. Et puis à droite, à gauche, en direction.
Ouais. Et puis, évidemment, tu es là parce que tu as saigné Jay Dilla.
Ouais, j'ai saigné, ouais.
Son approche te fascine.
C'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. Ouais. Et qui m'a beaucoup touché aussi, vraiment.
Ouais. Et toi, t'as pris la phase, juste après on continuera les présentations, mais t'as pris la phase Dilla de son vivant ou il était déjà décédé?
Je pense que
il est décédé en 2006.
Ouais, donc je pense que ça, j'ai pris quand il était mort déjà en 2008, un truc comme ça.
Ok.
Ouais.
Donc là, c'était déjà un mythe.
Ouais, c'était déjà un mythe, hein. Ouais, clairement.
Bon, Fab, toi, DJ Fab, voilà. Faut que tu te présentes aussi, d'autant plus que le mythe, tu l'as croisé.
Bah, le mythe, j'ai touché, je l'ai croisé. Je l'ai ramené sur la dernière date de concert qu'il y a eu au Nouveau Casino à l'époque. Je me souviens plus de l'année, excusez-moi. Ouais. Mais ouais, je l'ai ramené et c'était un très beau souvenir. Parce que j'ai discuté avec lui, j'ai discuté avec Matt Duke. On a été très proches pendant un bon bout de temps. Et ça a été une date aussi très émouvante, parce que quand j'ai appris qu'il était en fauteuil roulant, je ne le savais pas au démarrage quand j'avais booké le concert. Et je l'ai su juste un jour où je regarde, à l'époque on était sur c'était Internet, il n'y avait pas de Facebook, il y avait Facebook, mais
MySpace.
Ouais, exactement. Ouais. Ou, même maintenant, après MySpace, vraiment. Mmh. Et un jour je regarde une date en Suède et je vois fauteuil roulant, donc je me dis qu'est-ce que c'est que ça, pas possible. Et quand moi je book le Nouveau Casino avec pour Jay Dilla, tout était booké, on avait les billets, tout était fait, et donc j'appelle le manager, je fais je comprends pas là, il est en fauteuil roulant, mais ça fallait me le dire, parce que le Nouveau Casino
d'accessibilité
exactement, ouais, c'était pas prévu, et ça c'est un vrai problème. Tu vois, il suffit qu'il y ait un contrôle dans une salle et qu'il n'y a pas le truc des handicapés pour pouvoir monter dans la loge, pour pouvoir monter sur scène.
Ouais, les rampes, ouais.
ton truc, il part en vrille et on peut tout fermer. Donc ça a été un moment où, pour moi, de pression à deux jours, où j'ai dit, bah, moi j'annule tout. Et j'ai dit, et sa mère m'a dit, non, non, n'annule rien, s'il te plaît, n'annule rien. J'ai dit, mais ça dépend pas que de moi. Donc il fallait que je parle avec le nouveau casino, que je leur fasse comprendre que, bon voilà, on avait booké un hôtel et on savait pas qu'il était handicapé, donc il n'y avait pas vraiment les accès. Mmh. Tu vois, tous ces petits détails que personne ne peut comprendre au moment, mais en tant qu'organisateur de concert, tu le prends en pleine face et tu te dis, mon truc, il part en sucette en 30 secondes. Donc en fin de compte, en discutant bien avec Madiux, en discutant bien avec Jay, ben, il m'a dit, non, s'il te plaît, laisse la date, on s'arrange. Donc je vais aller chercher à l'aéroport, avec le van et tout, donc voilà, je le vois, emmitouflé. Déjà, t'as de la peine. Toi, t'as déjà de la peine. Donc, Madiux,
on précise, parce qu'il était malade.
Il était malade, ouais, exactement. Et bon, bah, on ramène à l'hôtel, donc l'hôtel était déjà booké, donc il n'y avait pas d'accès. C'est son manager qui le porte dans ses bras pour le monter dans la chambre d'hôtel qui était au premier étage, juste au premier, mais ça rentrait pas dans l'ascenseur. Ah, il y avait plein de petits détails qui étaient...
C'est là, tu vois, on voit que la question de l'accessibilité... Alors, je pense que depuis les années 2000, ça a quand même évolué, heureusement. Mais on sait qu'il y a plein d'endroits qui ne sont pas encore adaptés. On l'avait évoqué avec Anaïs Cardot dans cette émission, qui se déplace en béquille ou parfois en fauteuil, et qui s'est déjà heurté à ce problème-là. Et c'est vraiment une salle peut plus... Tu disais qu'il y a des réglementations, mais j'ai envie de dire, même d'un point de vue moral, entre guillemets, il faut pouvoir accueillir tout type d'artistes.
Ouais, mais tu vois, en soi, le nouveau casino... Ils auraient fait tout pour que ça soit accessible, mais si je ne le savais pas avant, donc j'ai dit au manager, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Donc ils ne voulaient absolument pas que j'annule la date. Donc ça a été pendant un ou deux jours des mails, des discussions téléphoniques. Non, on n'annule pas, machin, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai fait, ok, je prends le risque. Et à ce moment-là, bon, bah, on le fait venir, je vais les chercher à l'aéroport, on les ramène. Et après, il a fallu, dans la salle, trouver un moyen... Parce que je ne pouvais pas le faire monter dans les loges, parce que le nouveau casino, les loges, si ça a changé à l'époque, c'était en colimaçon, et c'était en haut d'une petite loge. Tout est donc il fallait trouver une idée. Donc il y avait sur scène, sur le côté de la scène, une entrée pour mettre du matériel. Donc on a tout dégagé, on s'est dit, bon, bah, là, ça sera pour qu'ils viennent se poser. Mais avant, il fallait qu'ils traversent les gens. Il n'y avait pas de, tu vois, il y avait pas de porte derrière pour qu'ils puissent venir faire une entrée un peu, tu vois, mais il fallait qu'ils traversent les gens. Donc, j'avais mis un DJ juste avant, et puis juste à un moment où, avant le concert, Rhythmatic, le DJ de Beat Junkies et de Visionaries, qui était son DJ à ce moment-là, bon, on m'a dit, bah, viens, on fait rentrer JD, et puis, on s'était bien mis en accord pour qu'à tel moment il rentre. J'ai demandé aux gens de se pousser, de s'écarter. Ils ont vu JD arriver en fauteuil roulant. Donc il y en avait qui ne le savaient pas. Il y en avait qui le savaient, mais il y en avait beaucoup qui ne le savaient pas. Donc beaucoup d'émotions. Donc on le porte sur scène avec le fauteuil roulant, il s'installe. Et ce qui est assez incroyable dans toute cette histoire, c'est pas tant qu'il soit malade, ça c'était un fait, mais c'est que pendant tout le concert, il fait toutes ses paroles. Il n'y a pas un moment où il bug. Il n'y a pas un moment où il bug, il rappe tout son truc, tu vois. Et c'était assez magique, mais c'était beaucoup, beaucoup d'émotions.
Je précise d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment on l'a amené, mais JD La était un compositeur, un beatmaker, mais c'est vrai qu'il était aussi parfois rappeur. Là, tu évoquais le fait qu'il a rappé. Et pour toi, quand même, je précise, parce que tu as parlé donc de cette date, mais toi, t'es un DJ, producteur, depuis longtemps,
depuis 13 ans dans le hip-hop.
Exactement.
Depuis les débuts en France, en fait.
Ouais, ouais. Ouais. Dynastie, enfin, je vais pas dire mon âge, mais.
Voilà, t'as été DJ pour EJM, par exemple.
Ouais, exactement.
Donc voilà, qui était quand même un des premiers rappeurs en solo en France. Voilà.
Exactement. Bah, début des années 90, t'accompagnes EJM. Après, t'as fait plein d'autres trucs. T'as même brièvement accompagné Stomy Bugsy.
Non, mais j'ai fait plein de trucs, j'étais...
La caution dont je parlais.
La caution, j'y suis resté 20 ans, enfin, tu vois, on est toujours des frères et tout, mais il y a un moment, bon, moi je me suis un peu décalé, et puis il y en a un des frères qui rappe plus, parce qu'il est plus dans le film cinéma, mais bon voilà...
On a reçu Nick Fury d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps.
Voilà, c'est la famille.
Je précise d'ailleurs, parce que toi, fin 90, début 2000, en fait, tu te connectes même globalement à cette scène dite de rap alternative.
TTC, La Caution, Fuzati, James Delec, et tout ce qui s'ensuit, toi. Et tous ces MC qu'on estime en rap français qui étaient en marge du rap français normal, mais quelque part qui avaient vraiment cette connotation de rappeur. Toi, et j'essayais un peu de regrouper tout ce monde-là, ce qui n'était pas facile non plus. Et puis chacun a fait son chemin de leur côté, et c'est parfait. comme TTC qui a fait, voilà.
Et je termine pour te présenter en disant qu'au-delà d'avoir accompagné JD sur sa dernière date, bah, en fait, tu lui rends hommage régulièrement, notamment dans le cadre de soirées 5U JD.
Alors les 5U JD, comme avec Manu, Emmanuel Fornali, on l'a fait pendant, je pense, 10 ans. On a fait à la Bellevilloise des belles soirées magnifiques en invitant des DJ américains qui ont touché effectivement JD. J'ai joué avec il y a eu Dez qui était déjà venu, il y a eu Spina, il y a eu plein de monde.
Et vous remettez, remettez ça le 6 février.
On remet ça d'une certaine façon, où effectivement le 6 février au New Morning, avec Fat Cat, DJ Dez, et je crois qu'il y a un musicos, des musicos, et plus moi en warm-up, pour encore
Les 20 ans.
Les 20 ans. Voilà.
Bon, bah si vous êtes à Paris, vous allez faire un tour au New Morning le 6
février. Vous allez en entendre parler.
Bon, ce que je vous propose, on peut peut-être commencer avec toi, Raph, parce qu'on l'a dit, légende qui a influencé plein de gens mainstream, mais qui vient quand même de l'underground.
Tout à fait.
Peut-être, on va pas faire la biographie, etc., mais très brièvement, d'où il sort Jay Dilla.
Donc Jay Dilla, James Yancey de son vrai nom, il vient de Détroit. Il est né dans les années 70 et il fait sa jeunesse dans les années 80. Et en fait, alors tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment des choses effectivement que j'ai glanées au fur et à mesure des années, mais qui m'ont permis d'être vraiment très précise en lisant ce bouquin. C'est que dans le Détroit des années 80, en fait, là où le hip-hop commence un petit peu à s'expandre en fait aux États-Unis, à Détroit, ça prend pas encore complètement. Et en fait, lui, il vient d'une famille de gens qui sont passionnés de musique. Sa mère, Madux, justement. Elle avait été chanteuse pendant une période de sa vie avant de vraiment se consacrer à ses enfants. Son père lui aussi a été un peu musicien puisque Détroit c'est la ville de la Motown, etc. Donc une ville de puis bien d'autres genres musicaux, hein, mais bon, en particulier pour les Afro-Américains dans les années 70 c'est très important. Et donc il est passionné de musique depuis tout jeune. Et il se prend en fait le hip-hop à un moment donné où en fait la jeunesse de Détroit, ils sont plus dans des espèces de dérivés d'un funk électronique. Mmh. Ce qui va arriver dans plein d'autres villes, hein, l'électro-funk à New York, ce genre de choses.
On l'a évoqué il y a peu, les Paris, les Nucleus, etc.
Ça existe à plein d'endroits. Mais il y a un son un peu spécifique à Détroit qui va ensuite donner naissance à la techno de Détroit, quoi. Mais lui, il se passionne pour le hip-hop qui vient de New York, un peu via les platines, en fait, c'est ça. Je pense que Fab voit très bien de quoi je parle, évidemment, hein. C'est les platines qui sont un peu l'élément déclencheur, en fait, pour lui. Parce qu'il est passionné de platines depuis qu'il est gamin. Il sait poser le diamant sur le vinyle et l'écoute. Il y a des trucs qui sont racontés où, en fait, ils ont une espèce de platine portable avec une batterie. Et des fois, dans des parcs, ils font des espèces de pique-niques familiaux. Il y a tout le quartier qui vient. Et il demande au jeune James de jouer, en fait, des trucs. Et genre, il a 7 ans et il pose le truc, et c'est lui qui est un peu le DJ pour ces trucs là quoi. Donc il est passionné de ça, il a déjà du coup cette grande culture musicale, et puis il se passionne pour le hip hop, et puis il y a déjà en fait plein de jeunes hommes et femmes à Détroit qui se passionnent pour ça entre la fin des années 80 début des années 90, et il y a tout un collectif un peu comme ça informel quoi, qui se forme avec plein de gens, le Future Proof de D12 par exemple, le groupe d'Eminem, Fat Cat que tu citais tout à l'heure, Fab, les futurs membres de Slum Village qui va être le groupe de JD ensuite, bref, dans un endroit qui va s'appeler le Hip Hop Shop notamment, où il se passe plein de choses, il y a des battles de MC, il y a des beat battles où il va commencer justement, à partir du moment où il commence à bricoler des beats avec la post-tape qu'on fait sur les cassettes, et puis ensuite grâce à M. Fiddler justement qu'il rencontre, qui est lui un musicien qui vient plutôt du funk.
C'est une figure importante, M. Fiddler.
Très importante. Vraiment très importante, parce que musicalement et au point de vue instrument, c'est quand même l'un des précurseurs sur Détroit, qui est entre, alors il l'a pas cité à Détroit, mais il y a aussi ce côté house,
tout à fait,
qui est énorme à Détroit. Qui est Ant Filler quelque part est déjà dans le truc un peu électronique, donc on sait pas si c'est pas encore du hip hop, mais c'est entre électro house, on sait pas. Et il y a vraiment une scène qui se marque à Détroit qui est vraiment énorme là-bas.
C'est marrant parce que moi, on parle de house, on parle de hip hop, mono, ouais, je pense à toi parce que c'est à ton parcours aussi, ça.
Ouais, absolument. De toute façon, quand tu digues dans ces environnements-là, tu te rends compte que la frontière est très 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 mince entre les influences, etc. Là, tu vois les influences que tu vois par rapport à Electrifying Mojo et tout, qui, si je dis pas de bêtises, avait une chaîne radio à Détroit et qui a en fait influencé pas mal de la jeunesse qui écoutait cette chaîne radio. Je crois qu'il avait un créneau, il me semble. Et en gros, t'as souvent ces
JD
trois.
JD avait un créneau.
Non, pardon, Electrifying Mojo, okay. Tu vois, qui a donné un peu, qui a planté une graine dans la tête de pas mal de gens. Et je sais qu'il y a ces trois influences qui reviennent souvent, qui sont Prince, Funkadelic et Kraftwerk. Donc en fait, tu prends ça, tu fais un petit mélange, tu plantes la graine à Détroit, Motor City, tu vois, et tu te retrouves avec un truc qui a des barrières très fines, en fait. C'est très poreux, en fait. Là où nous, ici, on a tendance à... peut-être dissocier un peu plus.
Parce que je pense qu'il y a eu, on va pas faire de l'histoire musicale, mais je pense qu'il y a, les scènes européennes qui ont été importantes dans la musique électronique et qui donnent peut-être cette impression d'eux. C'est vrai que la techno, à la base, c'est une musique noire de Détroit. Voilà.
Et avec, c'est vrai,
avec la house de Chicago, comme disait Stromae.
C'est vrai qu'on ramène souvent aussi à l'Europe parce qu'il y a l'influence massive de Kraftwerk qui a déjà été citée. En fait, il y a des allers-retours constants.
Oui, exactement, c'est un dialogue. Mais oui. C'est un dialogue, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, sans qu'on saute un peu trop le diamant sur le sillon un peu de la chronologie de Dilla comme ça, mais c'est vrai que même dans sa musique, il y a des et ça, c'est des trucs qui sont parfois un peu occultés par des fans de Dilla qui aiment surtout ces trucs très proches des soulquarians avec des influences soul, jazz, etc. Mais lui-même avait des trucs qui étaient agressif, électronique. Je pense à des choses qu'il a pu faire, par exemple, pour Frequendank, par exemple.
Quelques morceaux pour Busta Rhymes aussi.
Oui, il y a un morceau qui s'appelle Make It Hurt, par exemple, pour Busta Rhymes sur son album Genesis. C'est quasiment de la techno très froide de Détroit, quoi.
On peut s'écouter peut-être un extrait pour commencer.
C'est très drôle de commencer à parler de Jay-Z en écoutant Make It Hurt, mais moi je suis chaud parce que c'est un morceau qui est excellent.
Faisons ça. Donc, c'est un morceau de Busta Rhymes produit par Jay-Z, Make It Hurt.
We're gonna change things. Yeah. Genesis, niggas. As I introduce y'all to the motherfucking new millennium bounce. Yeah, 2001, hot shit, come on. All my niggas in the place, all my bitches in the place, come on. Let's get to it. All my niggas and my bitches, let's get to it. New millennium nigga bounce, new millennium bounce, come on. Hey, yo, what's calling a motherfucker who just let the hawk in? Nigga, guess who just walked in? Lynch most, make some other niggas sit up on the bench broke, then I step up in the trench coat, nigga. Got no time to be fucking with the Wonderama niggas, let me loosen up your bra strap, mama nigga.
Listen up!
Look how we be ripping up and got the party picking up and got you niggas spitting up shit. Yeah. No pain, nigga, never no gain, nigga, no strain. OD into my cocaine music. Spit that venom. Pretty thick bitches walk by if you let them put me printing through their denim. Take them for a ride on the block, let her enjoy the whip. Drop her off, let her walk the strip. Ain't it funny how nature work? Make bitches wanna bounce on a nigga till they make it hurt. Come on! Shake your shit until you make it hurt. Throw your pussy till you make it hurt. Pop that shit until you make it hurt. Bounce till you really wanna make it hurt. Now bang your head until you make it hurt. Come on, stop.
Alors oui, c'est pas conventionnel, c'est pas le morceau le plus représentatif de ce qu'on imagine, hein, tu vois, de Jay-Z là.
Mais nous, on aime bien nous sortir des sorties battues, d'accord, dans le tempo, voilà.
Par contre, il y a un truc.
Ça s'appelle plus comme ça maintenant. C'est Monte le son, le podcast.
Mais c'est pas grave. Ah. On accepte de dire.
Pour moi, c'est comme Twitter et X. Vous serez toujours dans le tempo.
Tu pourrais dire XDLT.
Rien à foutre.
T'entends tout quand même là. Pardon de t'interrompre, mais t'entends tout dans la prod déjà. T'as l'espèce de lead dans les aigus là, ça fait Kraftwerk direct.
Ouais.
Le kick sur tous les temps, tu sais pas si t'es entre la house, mais en même temps, il a écouté un vinyle de King Tubby de dub des années 70. Ouais. Busta, il envoie son truc. Il est peut-être un peu dans le dancehall. T'as les Caraïbes qui arrivent.
Comme une d'origine jamaïcaine en plus, Busta.
Tu vois, il y a un truc où là, ce que t'as passé, pour moi, il y a déjà une synthèse. C'est juste exprimé d'une manière ou à un instant T. Je suppose qu'il y a des styles qui ressortent, mais t'entends que, sans essayer de trop classifier sa musique, déjà t'entends une espèce de synthèse de, en fait, le mec digue des vinyles et il prend.
Mais enfin là, on est en 2001.
Ouais, on est en 2001. On est sur Genesis.
Sa carrière,
il y a beaucoup de choses.
Il s'est passé beaucoup de choses.
Et alors peut-être qu'on peut, parce qu'on va essayer de pas être trop non plus, de suivre la chronologie absolument. Peut-être qu'on peut commencer, parler de Slum Village. Parce que c'est quand même.
Avant de Slum Village, il y a quelque chose.
Tu veux nous dire, Fab? Vas-y.
First Front.
Oui, bien sûr, vas-y, parle.
Le premier groupe de Jay-Z avec Fat Cat,
ouais.
Qui est le premier combo musical entre Fat Cat et lui, qui est avant Slum Village.
Fat Cat, qui est quoi? Qui est un rappeur?
Qui est un rappeur
de Détroit aussi,
que j'ai ramené aussi à l'époque avec Frank and Dank quand il est venu, Jay-Z.
Et qui sera là d'ailleurs pour la soirée des 20 ans.
Et donc, qui est un rappeur exceptionnel aussi. Donc, qui est le premier groupe. Ou vinyle où on sort ou qui s'appelle The First Front qui est Fat Cat et Jay-Z
qui à l'époque signait John Doe.
Exactement.
Voilà. Okay. Voilà. À l'époque signait en fait le premier nom de producteur c'était John Doe.
Il voulait pas se faire remarquer, il a toujours voulu être discret et ça a été en même temps sa marque mais en même temps ça a été aussi son. Moi je trouve qu'il s'est tiré une balle dans le pied parce que juste après, bon, effectivement, il y a juste après First Front, il a la chance d'être reconnu et écouté par différentes personnes comme Tribe Called Quest.
Parce que je vois, il y a First Down.
C'est First Down. Et juste après, il se ferait repérer par Tribe Called Quest.
En fait, c'est Amp Fiddler que tu citais. Amp Fiddler qui file une cassette démo à Q-Tip. Et en fait, Q-Tip écoute et il tombe de sa chaise.
Ok, donc on a ces deux mecs de Détroit qui montent un groupe ensemble, First Down. J.D. là plutôt à la prod, Fat Cat au rap. Ouais. Il rappe pas à ce moment-là encore, J.D.
Pas encore, ouais, mais ouais. Tu sens que...
Ouais, il doit rapouiller dans son coin.
Ouais, voilà. Okay. Voilà. Pas enregistré en tout cas. Ouais. Et donc ces mecs font des morceaux et tout, et qui sont entendus par ce qui est à l'époque...
Alors, il y a un maxi ouais. First Down qui est sorti, je crois qu'il y a un album qui est sorti, mais qui est sorti, je crois, vraiment... Moi j'ai 2-3 maxi, pas plus, et c'est en white label... un truc assez inconnu, mais ça passe vite, on fait pas gaffe à ça.
On est au début des années 90,
en tout cas. On est en 84 heures, je crois, ou quelque chose dans le genre. Ouais.
Voilà. Mais on fait pas gaffe à ça.
Et par contre, il y a quelqu'un qui fait gaffe, c'est Q-Tip de
Tribe Called Quest. Alors, pour être exact, c'est la démo de Slum Village, je crois.
Ouais, exactement.
C'est le Fantastic Volume 1 de Slum Village, en fait, que Hump Fiddler donne à Q-Tip. Et donc, c'est Q-Tip, en fait, qui écoute ce truc-là.
Donc, Hump Fiddler, qui est lui aussi de Detroit, on a dit un peu qui c'est, il repère Dilla.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, plus que ça, en fait, c'est que je sais plus par.
Ils sont pas très loin.
Ouais, c'est son voisin.
Dilla sait que voilà. Filler fait déjà de la musique et il va le voir parce qu'il voilà, a pas ça. De machine. Il a un truc un peu pourri. Puis il va lui demander conseil. Donc il tape à sa porte et il dit voilà, moi je fais de la musique avec ça, écoute. Et Filler, il fait.
Avec ça.
T'as un problème. Toi, t'as un problème. Si avec ça, tu fais ça, toi, t'as un problème. Et donc il le prend sous son aile et il lui montre. Plein de trucs que Dilla après dissèque tout seul de son côté. Et c'est là que moi je dis, Dilla, oui, c'est un génie dans l'aptitude de pouvoir capter toutes les infos et après de les retranscrire à sa façon.
Mmh. Mono, parce que toi, tu as suivi aussi un peu cette affaire avec Hump Fiddler, tu m'en as parlé même avant ouais. l'émission. Vous connaissez un morceau d'Hump Fiddler qu'on pourrait s'écouter juste pour voir
un
peu
ce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je les connais.
Il y en a un qui que vous aimez en particulier ou...
Je m'en souviens pas de
tout. Je vois, il y a I Believe in You, il y a Dreaming, il y a Faith.
Ouais, il y en a plein.
Allez, toi, t'en connais Daz
Ouais, j'ai écouté, mais.
C'est quoi, je mets le plus écouté.
Vas-y, vas-y.
Yes, trust your soul. Ah, mais ça, c'est avec Dilla, en fait, déjà. Attends, est-ce qu'on pourrait pas trouver un truc plus ancien ?
C'est chouette, hein.
Attends, je mets un truc peut-être
plus ancien. Ça change de votre truc de techno, là.
Ah, ça, c'est récent aussi. Parce qu'en fait, en fait, c'est un mec qui est encore là, en fait.
Il a vachement... Non, il est décédé.
Il y a...
Ouais, son âme.
Il y a un an ou deux ans, je crois.
Ah, mais il a continué à faire de la musique.
Il a continué à faire de la musique.
Ouais, il collaborait énormément aussi. Ouais. C'est quelqu'un que tu vas beaucoup retrouver en.
Un arrangement,
ouais, surtout. Et je crois que c'était un peu un tonton dans le quartier, quoi. Ouais. Parce que okay. J'ai l'impression, moi de loin, je suis pas aussi précis que mon collègue à droite sur l'histoire, mais il me semble qu'il y a cette proximité, cette vie de quartier, enfin, de gens qui se connaissent, qui jouent vachement dans l'équation. Mmh, et c'est pour ça que tu as beaucoup de noms et de musique qui se connectent. Je crois qu'il y avait cette histoire avec, je sais plus sur quelle pochette, il est avec une femme sur la pochette et il me semblait que c'était genre un strip club du coin.
Ah, mais oui, c'est pour Welcome to Detroit.
Ouais,
tout à fait.
Tu vois, il y a
c'est son strip club préféré de Détroit.
Voilà. Chocolate Factory, je crois, il s'appelle.
C'est très américain, ça.
Il me semble que, je sais plus si c'est Questlove ou Hump Fiddler justement, qu'en parlait, mais il y a ce truc de proximité, justement.
Alors, vous avez évoqué le fait que c'est quand même. Par le premier maxi de Slum Village, un truc comme ça.
Alors c'est les démos.
Les démos.
Pour ce qui est, en fait, le premier album qui est jamais vraiment sorti de Slum
démo
Village.
Démo instru. Ouais. Il y avait pas encore de voix de Slum V dessus. Donc il les envoie, à Q-Tip. Et Q-Tip, oh, pareil.
Et pour l'anecdote, alors paix à son âme aussi, Trugoy de La Soul aurait dit à Q-Tip, en fait, il fait comme toi, mais en mieux.
Ouais. Alors, je te suis parce que... Alors, Q-Tip, il a une façon, c'est pas beaucoup raconté, mais c'est un pompeur. C'est quelqu'un qui flaire les choses et qui pompe. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme il a pu pomper aussi des trucs à Large Pro.
Ouais,
Large Professeur.
Bien sûr.
Mais après, ça n'empêche pas que c'est un super artiste.
C'est quoi son blaze à Q-Tip quand il produit ?
Abstract.
Ouais.
Mais il a beaucoup pompé sur pas mal de gens.
Ouais. Il s'inspire quoi.
Ce qu'il faut dire, c'est que à ce moment-là, je pense qu'on est déjà à l'apogée de Tribe Called Quest et que c'est des immenses stars.
Oui, ils ont déjà sorti 3 albums au moins, puisque Midnight Marauder c'est déjà 93, c'est ça ?
Ouais.
Donc ils ont déjà sorti Lohan Theory, le premier album avec un nom hyper long là, donc j'arrive jamais à prononcer le truc. Instinctive Travel Path, machin vidéo.
Oui, il y a Second Wallet.
Lève ma wallet à Del Segundo. Il y a eu Lohan Theory, il y a eu Midnight Dream Theater. Donc en fait, ils ont déjà ces trois albums-là qui sont immenses pour le rap américain. Donc oui, c'est déjà des immenses stars quand on arrive en 94-95.
Ouais. Donc j'imagine quand Q-Tip il se prend une claque, il dit c'est qui ces types, derrière ça peut avoir une incidence sur une carrière.
Bah il fait tourner ça à tout le monde en fait dans son entourage. C'est ça l'histoire aussi, c'est qu'il fait tourner ça à tout le monde dans son entourage.
C'est intéressant parce que si c'est un pompeur, il aurait très bien pu s'asseoir dessus.
Alors pour le coup, il a été plutôt clean. Bon, il s'est écouté à plein de gens, notamment D'Angelo aussi. Et puis surtout, en fait, normalement, Q-Tip est censé produire sur le deuxième album de Pharcyde, groupe californien, qui est dans l'esprit très proche de la Native Tongue, c'est-à-dire de tout ce collectif dont font partie Tribe Called Quest. Mais en fait, il manque un peu de temps, mais il dit au gars de Pharcyde, en fait, j'ai un petit jeune là de Détroit, il est hyper fort, il s'appelle JD. Et en fait, le truc, c'est que Q-Tip, son vrai nom, c'est Jonathan Davis. Et en fait, les mecs de Pharcyde, ils disent... C'est bizarre là ton JD, ce serait pas toi en fait.
Un alias.
C'est bizarre ton affaire là, parce que quand on écoute ce qu'il fait, bon voilà. Mais en fait, bon, finalement, c'est bien ça. Et ça va être les premiers gros placements en fait de JD, puisqu'à l'époque, il s'appelle pas JD là, JD. J-A-Y-D-E. Et donc, c'est notamment un morceau mythique qui est Running.
Morceau mythique, clip mythique,
oui, tout est
pourtant, avec drop aussi.
Le clip qui est magnifique.
Le drop,
il faut qu'on s'écoute des extraits.
Allez, Ronin, vas-y, c'est parti.
Non, peut-être qu'on pourrait commencer parce qu'on a fait un peu, il y a une espèce de chronologie. Déjà, peut-être juste Tribe Called Quest, rappeler ce que c'est. On peut mettre, je sais pas, un Canal qui quitte.
Tu mets Electric Relaxation déjà direct.
Electric, ok, on peut faire ça.
Il y a eu la dictature là.
Pour avoir une petite idée, écoute,
t'as pas le choix.
Il a décidé direct. Je mets Electric Relaxation. Black hair and your fat ass style. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my way. If I was working. Ok, donc on voit qu'on est dans ce rap, ce hip hop hyper jazzy, beaucoup basé sur le sample, etc. Et donc ces mecs se prennent Slum Village. Il faut qu'on écoute un extrait de Slum Village, peut-être du early Slum Village, justement un peu pour se replonger dans le moment où ils découvrent ça.
J'ai plus le titre en tête du premier Fantastic.
C'est le 2 qui a choqué tout le monde.
Ouais, c'est vraiment le 2, mais là du coup on est un peu plus loin dans la.
Au pire, on s'écoute un peu d'après, c'est pas grave. Hein. C'est pour avoir une idée de ce à quoi ressemble Slum Village, le son Slum Village. Peut-être un titre emblématique, représentatif.
Bah, Climax, non ?
Ouais, c'est ce que j'allais dire, Climax.
Climax en vrai.
Et ben on s'écoute ça alors.
Selfish. Oui, ah non, Selfish, c'est produit par Kanye West.
Ouais.
Attention,
ça s'entend. Hein.
Attention.
Ouais. Oui, c'est pour ça que j'aime bien. Alors.
Qui d'une certaine manière remplace JD dans Slum Village, Kanye.
Non, en fait, il a juste produit quelques morceaux.
Quelques morceaux comme ça. Voilà, très bien. Bon, on choisit Climax donc.
Allez,
ouais, vas-y. You ain't gotta play hard to get. I know you like the art sex. I'm putting down my plan like an architect. It's for you, we can all get wet. I got a lot of nerd talking this to you, right? I'm straight up, this shit makes sense to you. Girl, you ain't got a front, don't be acting dumb. Hey, if you got the good, then I want some. I'm trying to get down, this ain't no lie, you got. But I ain't never fucked with a menage, why? It's three like the stripes on the Adidas. Getting live like we at the Mardi Gras. Getting live like we at the Mardi Gras. Three is the match number, ask my partner. Nah, I be serving that ass like a bartender. I'm only you, what when you ain't watching ya? I'm only you, what when you ain't watching ya? Things get so, I'm caught up in your game, I'm kinda tango. Maybe it's the way that you sit on a down low. Saying things to me the one and three would only know. I wanna tell you though that these things seem to me. Situations get you from. Bon, Mono, là, en termes de prod, tout à l'heure tu réagissais sur le style, etc. Là, toi, ça t'évoque un truc.
Les mécaniques, c'est comme quelqu'un qui joue au jeu vidéo, c'est un truc en studio. Il y a des idées dans cette production, mais je crois que je peux les utiliser pendant 25 ans encore. Tu vois, rien que le break de batterie, là. Ce truc-là, ça, c'est mythique. Tu peux faire 50 chansons avec ça. Les petits leads, là, qui s'envolent un petit peu pendant le refrain.
Tu vois, cette façon de passer la basse, là, qu'après, on a entendu chez Kev Brown.
Très filtré,
mort, là.
Ouais, MPC style.
Franchement.
Ah non, c'est tout est mythique. Hein, tout est bon. Les paroles, il y avait toujours ce truc avec Slum V. Les instrus, elles sont incroyables. Et après, t'écoutes les paroles et t'as ce petit truc un peu. Bah là, clairement, c'est ultra explicite.
Ah, je veux tendre un coup.
C'est partagé. Ouais,
ah non, mais je veux tendre un coup.
Juste pour ceux qui parlent pas anglais, pourquoi tu dis les paroles mono qui...
Ben.
Le morceau s'appelle Climax. J'imagine qu'on a compris.
C'est un morceau sur le polyamour.
Ah, déconstruit.
En gros, il dit j'aimerais bien qu'on fasse un ménage à trois.
Ménage à trois. Voilà.
En gros. Okay.
Alors, le truc déconstruit polyamour, ça passe par contre.
Ménage à trois, ouais.
Ça passe un peu moins.
Polygamie.
Moi, c'était plus une manière de dire que des fois, entre la profondeur émotionnelle des instrus et peut-être les lyrics qu'ils mettent, t'as un petit contraste qui est pas forcément
mauvais. C'est pour ça que c'est intéressant de tordre le cou un truc. C'est-à-dire que. Après, il y a une espèce d'image d'Épinal auprès de certains grands amateurs de JD et un peu dans le storytelling autour de lui. C'est-à-dire que comme c'était quelqu'un qui effectivement avait quelque chose de très raffiné dans sa musique et dans tout l'héritage qu'il avait, jazz et soul, cette espèce d'image d'Épinal de ah, c'est quand même bien le rap de JD, etc. Bon, bref, JD, c'est une Kaira. Voilà. Et Slum Village, en fait, bah, il te parlait de trucs de petites frappes de Détroit, en fait. C'est des mecs qui ont fait des combines, c'est des mecs qui ont survécu comme ils pouvaient dans l'Amérique des années 80 et 90. Et bah ouais, JD aimait aller au strip club, il adorait.
Américain, quoi.
Et voilà. S'acheter des très belles choses.
Il est afro-américain, même.
Ouais. C'est vrai. Et on le retrouve d'ailleurs parfois dans ce conflit qui peut exister entre des gens qui aiment le rap à l'ancienne, etc. D'ailleurs, qui sont pas forcément issus du Serai rap à la base, mais qui. Parce que les sonorités sont smooth, sont jazz, sont soul, se disent qu'il y a un truc doux, plus accessible, et donc il leur correspond plus. Alors qu'effectivement, parfois,
c'est vraiment ça. Il te raconte. Alors c'est pas du gangsta rap au sens vraiment du années 90 du terme, hein, qu'on s'entende bien. Mais en fait, il te raconte leur vie de mecs qui traînent dans la rue comme plein d'autres en fait à Détroit, qui est pas très éloigné de ce que fait un mec comme Proof par exemple de D12 ou d'autres gars D12 par exemple, tu vois, ou de Royce de 5ix9ine un petit peu plus tard, de manière différente. Mais en fait, il trappe ça en fait. C'est juste
plus agressif. Ça dépend.
Et puis surtout, encore une fois, le style de production de JD qui fait que. Mais il n'y a pas que des morceaux comme ça en plus dans la discographie de Slum Village. Donc voilà.
T'allais dire un truc, Mono?
Non, c'est bon. Ça. Il est bien formé.
Il a fait ses devoirs.
Bon, et ça a amené, on l'a dit, à une collaboration. Qui va être essentiel parce que, en fait, on le disait, JD là, plutôt figure de l'underground, mais qui va avoir quand même quelques tubes à son actif. Et c'est vrai que les deux morceaux de Farside qu'on a évoqués sont des tubes à leur échelle. En tout cas, à l'échelle du hip-hop, c'est des gros morceaux, Run In, Drop. Un des deux, les deux
bah, les deux.
Alors, honnêtement, je veux dire, Drop, au-delà du clip qui est incroyable, qui est à l'envers.
comment s'appelle-t-il le français Gondry? C'est pas Gondry qui le fait, ce clip?
Ah, je sais plus, je me souviens plus.
Je crois que c'est Michel Gondry.
Et Running, qui sont le sample du truc brésilien et tout. La façon dont la particularité de JD, c'est qu'il fait ses trucs sans cantise, ce bâtard.
Oui.
Ouais, ça c'est un.
C'est le petit point technique de l'émission.
Voilà, la cantise. Alors, est-ce qu'on rappelle ce que c'est que la cantise? Mono.
La cantise. Alors, la cantise, en gros, à l'époque, déjà, il faut savoir comment on fait de la musique jusqu'à un certain endroit dans le temps. Donc, JD là utilisait une MPC pour la plupart du temps. C'est un séquenceur, c'est un endroit où, au lieu d'utiliser un ordinateur, tu peux faire de la musique.
On en a parlé.
Énormément d'informations visuelles, donc ça se fait beaucoup à l'oreille.
Tout petit écran, des pads. Ouais.
Voilà, c'est ça. La plupart du temps, on a tendance à quantiser, ce qui veut dire qu'en gros, on tape notre truc, on n'est pas trop en rythme. Des fois, il y a des coups qui sont à côté. La machine va
ajuster pour remettre au plus près.
Ouais. Et donc, Dilla, sa spécificité, c'était que sur pas mal de compositions qu'il faisait, il était en no quantise. Ça veut dire pas de quantification, ça veut dire ce qu'il a tapé, c'est ce qu'il a tapé. Il n'y a pas de correction. Et en fait, ça demande un sens du timing assez particulier, très. Très léché, quoi. Il faut un bon pocket, comme on disait.
Un coup de génie. Swing de grove,
un coup de génie. Moi, c'est un coup de génie. C'est, comme tu dis, un certain swing de nature.
Mais c'est un coup de génie et en même temps, enfin, tu sais, c'est comme, par exemple, si tu prends en rap français, c'est comme Oxmo Puccino, quoi. Le mec rappe pas dans les temps. Et dans les années 90, quand tu rappais, il fallait être dans les temps. Donc quand t'étais pas dans les temps.
Il fallait être très droit, en fait.
Voilà, en fait, c'est ça. Et quand t'étais pas dans les temps, ça s'entendait tout de suite. Et du coup, les gens disaient, c'est pas du bon rap. Jusqu'à ce qu'Oxmo, il le fasse. Et qu'il ramène ce truc-là et que les gens disent ah ouais, mais lui, quand il le fait, c'est bien. Mais pourtant, il est pas dans les temps.
Je pense que tu peux pousser. Tu peux toujours pousser à un endroit où ce sera forcément dans le rythme. Même quand ça te paraît hors temps, si tu veux conscientiser le truc au max et vraiment chercher à expliquer tout. Bien que je trouve que la musique parle d'elle-même mieux que certains mots, des fois, et même souvent. tu te rends compte qu'en fait c'est trop chaud ce qu'il a fait.
Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, en faisant un truc qui pouvait être considéré comme un défaut, mais en le poussant à son paroxysme, ça devient sa qualité. En fait.
Parce qu'en fait, le temps, c'est une convention, notamment dans la musique. C'est très droit, tel qu'on la conçoit de manière très académique, quoi. Et effectivement, il y a des artistes, soit des interprètes, soit des compositeurs, qui jouent sur du micro-timing. D'ailleurs, dans le bouquin, tous ces chapitres-là sont hyper passionnants sur comment, en fait, Jay Dilla fait partie de ceux qui ont beaucoup joué sur du micro-timing.
Je pense qu'il le savait parce qu'il voulait déjouer. Il voulait déjouer la MPC.
C'est ça.
Et vraiment arriver à faire un truc sans avoir besoin de se servir de la quantise.
Absolument.
Parce que
il a réussi.
C'est là où on arrive. Après, Fab, tu veux nous parler encore un peu de ce rythme, etc. Et d'ailleurs, le bouquin s'appelle Dilla Time. Mm-hmm.
Toute la théorie de Dan Charnas, qui reprend, en fait, il poursuit et il vulgarise un petit peu de travaux universitaires, c'est que, effectivement, la force de Jay Dilla, c'est qu'il a créé son propre temps, en fait. Mmh. Parce qu'il sait aussi bien. Et en fait, tu le disais, il avait parfaitement conscience de ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté de jazz, qui a beaucoup écouté de soul et d'autres genres musicaux. C'était un passionné de musique. Et donc, en fait, il a forcer un peu la machine, justement, en fait, il a déjoué, il a joué sur les zones grises de la machine, comme le disait très bien Mono, tu vois, aussi sur enlever la quantise, tous ces trucs de gris qui sont très rigides avec les machines à partir des années 70-80 pour des questions de mémoire, etc. Lui, il va jouer justement de ses contraintes pour créer son propre temps. Et ça s'entend sur un morceau notamment, et c'est peut-être l'occasion de l'écouter, un morceau comme Run In, où en fait, lui, déjà, en fait, il va même pas faire une grille rythmique qui fait 4 ou 8 mesures, il fait un espèce de, je crois, un 12 ou un 18. Enfin, bref, c'est très, comment tombent les kicks, c'est très bizarre. Et en fait, il les joue à la main. Et en fait, au bout d'un moment, il dit, bah, on va les laisser comme ça, il reboucle derrière, quoi. Voilà.
Et ben, on s'écoute Run In The Far Side. Je précise deux choses. Le clip de Drop, qui est légendaire, c'est Spike Jonze.
Spike Jonze, c'est ça.
C'est un peu les deux qui, à une époque, étaient à fond dans les clips, etc. Et sur ce que tu disais, à savoir, tu sais, quand t'es pas dans les temps et tout, pour certains, c'est un défaut. Puis après, il y a un mec qui met. Je pense qu'il y a un truc derrière tout ça, c'est la maîtrise.
C'est-à-dire que
quand le mec fait n'importe quoi, il est pas dans les temps, c'est une chose. Par contre, quand le type a conscientisé, comme on le disait, a conscience de ce qu'il fait, est capable de le reproduire dans une forme de maîtrise.
En fait, il défie la norme. Et il crée autre chose.
C'est ce qu'il a fait. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Ouais.
Et on s'écoute cet exemple dans Run In.
C'est un très bon exemple pour ça.
Allez, c'est parti.
Et le clip est ouf.
Et surtout le sample.
Ouais. Le sample de musique brésilienne.
Et dans Run, c'est Run DMC. Dans Run, c'est Run DMC.
Quand tu te concentres vraiment sur la rythmique, tu te rends compte à quel point
c'est décalé.
Ça part dans tous les sens.
Alors, on réécoute en se concentrant sur le rythme et la batterie.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que la convention qui était rentrée un peu en jeu dans le rap à partir des années 80, c'était la prévisibilité. C'est ça qui était cool. C'était des boucles de 4 ou 8 mesures, etc. Ça rendait le truc hypnotique, comme plein de musique électronique. On parlait de la techno, de la house, etc. En fait, là, il remet de l'imprévisibilité. Dis là, en fait, quand il fait ce morceau-là. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu sais jamais quand la grosse caisse va tomber. Et en plus, ça joue sur des espèces de micro-temps parce qu'il n'y a pas cette quantisation. Donc, c'est hyper intéressant, il casse cette convention-là.
Il y a un truc aussi à noter, c'est que pourquoi le truc fonctionne aussi bien aussi, c'est parce que les MC de Farside, ils étaient
aussi
chauds. Ils étaient ultra chauds. Et du coup, il n'y a pas un truc zarbi. En fait, ça fait.
T'as une stabilité.
Ouais, t'as l'impression d'avoir
même derrière
un
le rythme,
en fait.
Mais les rappeurs s'adaptent à ce qu'ils ont entendu. Hein. Ouais. Ils n'avaient pas le choix.
Ouais, mais tu vois, c'est des
parce que quand tu prends le sample, brésilien, tu l'entends, tu te dis, attends, moi, c'est vraiment, un jour, il faut écouter le sample brésilien. Il l'a détuné, mais. tu vois, mais il a vraiment travaillé le truc pour vraiment que ça colle à sa rythmique, tu vois. Mais c'est ce qui est
bien. Franchement, ça, moi c'est ce morceau-là où j'ai pris la phase, tu vois, vraiment, parce que là, j'étais littéralement devant ma télé, devant UMTV Rap 194, tu vois, et on prend le truc, alors qu'on attendait tous le Wu-Tang ou Dr. Dre, tu vois, et on se prend ça, et on fait, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, vraiment.
Qu'est-ce que c'est que cette
Mais j'avais même pas, moi, conscience de qui avait fait la prod à l'époque. Juste, déjà, le clip en lui-même où ils inversent
mais
le cliché
de l'esclavagisme. C'est que Dilla, sur Farside, et après sur Tribe Called Quest, les gens ne savent pas.
Ouais, on savait pas.
Personne ne sait.
En plus, c'était personne une époque où soit t'étais producteur superstar, genre Dr. Dre ou Reza, tu vois, soit t'étais personne, en fait, parce qu'on ne donnait pas d'importance, même dans les crédits sur MTV, dans les clips, t'avais pas forcément produit par, tu vois. Donc, nous, on prend le truc, et il y a, encore une fois, l'imagerie qui va avec le retournement du cliché esclavagiste, avec les Afro-Américains qui sont sur des chevaux dans les plantations, et les Blancs qui travaillent et qui ramassent le coton. Il y avait tout ce truc qu'on se prend en pleine gueule, tu vois. Et tu sens qu'il se passe un truc. Tu sens vraiment qu'il se passe un truc. Mais moi, j'étais en mode, waouh,
qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est un ovni, quoi, vraiment.
Ce que je vous propose, c'est cette notion de rythme, c'est les spécificités de Dilla. On va revenir dessus. Mm-hmm. Mais faisons d'abord, on contourne un peu le truc, parce qu'il y a un aspect essentiel dans sa carrière qu'on a commencé à évoquer, c'est le fait qu'il travaille avec beaucoup de gens, qu'il est beaucoup dans des collectifs. Mm-hmm. Donc on a parlé du fait que ça commence avec First Down, ensuite il y a Slum Village, ensuite il rencontre les gars de Tribe Called Quest, etc. Ils vont d'ailleurs produire ensemble avec Q-Tip, ils vont former une forme de collectif qui s'appelle The Yuma.
Oui, tout à fait.
Mais The Yuma, encore une fois, toi, J-Diz, mais pas en avant.
Ouais.
Personne ne sait que beaucoup plus tard qu'on sait que c'est Jelly, mais personne ne sait au démarrage que c'est Jelly. Il prend un autre pseudo parce que je crois qu'il a pas envie que ce qui se passe sur Bizarre Ride, ça puisse, et je pense qu'il y a une question de droit, je sais pas quoi, il avait déjà signé ailleurs.
Il y a eu des problèmes contractuels effectivement au début de sa carrière aussi.
Donc ouais. Il est obligé de prendre un pseudo pour pouvoir faire l'album de Tribe et de mettre The Yuma, mais je te jure que moi, déjà à l'époque, quand tu prends l'album de Tribe Called Quest, tu vois, The Yuma, il n'y a pas marqué Jelly. Hein. Mm-hmm.
Parce qu'en fait, c'est un truc qui est raconté dans le bouquin, c'est que de la même manière de Tribe Called Quest, où en fait toutes les prods sont signées au Tribe Called Quest, alors que parfois ça pouvait être Q-Tip, parfois ça pouvait être Ali Shaheed, etc. De la même manière, Q-Tip en fait propose un fonctionnement collectif, c'est-à-dire on signe tout de la part de Yuma, peu importe qui fait en fait. Ce qui va poser problème quelques années plus tard, bien effectivement, sûr. Quand J.D. va vouloir commencer à prendre son envol, parce que, je suis désolé, je sabote un peu ton truc sur le collectif, mais on va y arriver aussi sur le collectif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, J.D. sent qu'il se fait pomper en fait, certaines idées.
Et voilà, on y arrive.
tout à l'heure, t'as fait écouter en tout début d'émission, ce qui est normal, le morceau God Till It's Gone de Janet Jackson avec Q-Tip, qui est une prod de Jimmy Jam et Terry Lewis, les grands producteurs historiques de Janet Jackson, qui en fait reprennent complètement le style, on est en 97, hein, qui reprennent complètement le style de J.D.
Ouais.
Et là, il se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait. C'est là où je commence à me faire pomper, alors que moi, dans les crédits de The Yuma, personne ne sait que c'est moi. Par exemple, le premier album de Busta Rhymes, The Coming, c'est marqué The Yuma. Mais en fait, bon, quand t'écoutes bien un morceau comme Still Shining, par exemple, tu sais que c'est J.D. pour ce côté imprévisible, par exemple. Donc voilà.
T'avais un autre exemple dont tu as parlé, je continue. C'est Do For Love de Tupac.
Et Do For Love de Tupac, par exemple, c'est typiquement ça. Donc c'est un des premiers gros tubes posthumes de Tupac.
Donc on est en 97, je le mets un peu en fond.
Ouais.
Pour qu'on ait une petite idée.
Ah bah c'est classique.
Et là, vous voyez comment la basse est filtrée. Ces espèces de petits sons flottants. C'est typiquement. Écoutez les drums. Si aujourd'hui on était en 2025 sur une plateforme de beatmaking, quelqu'un ferait un J.D. La type beat ou un J.D. type beat, ce serait Do For Love. Enfin, tu vois, on est complètement dedans. C'est un collectif ou un duo de producteurs danois, sous le choc ou quelque chose dans le genre de mémoire, c'est ça?
Ouais, et qui avait déjà travaillé avec Daz FX.
Tout à fait.
C'est sous choc et Carlin.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ils reprennent le style de Dilla. Donc en fait, il en a un peu marre à ce moment-là de ce fonctionnement collectif pour The Yuma. Voilà.
Alors, juste Do For Love, on écoute encore un tout petit peu.
Excellent morceau, bien sûr.
Tout le monde connaît ça. Mm. Taught me so many lessons, how not to mess with broken hearts, so many questions. When this began, we was the perfect match, perhaps. We had some problems, but we working at it, and now the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away, just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man, it just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm, don't be alarmed. Your attitude was the cause, you got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions,
time I hear you calling me to come back, I'm a sucker for love.
Caldwell,
classique hein, de chez classique.
T'es un peu sur Pete Rock par extension, je voulais dire justement.
Ah ouais, vas-y,
parce que,
vas-y,
parce que Dilla, si t'es souvent, enfin, de toute cette génération de beatmakers, t'es un peu les papas, on va dire, les tontons, tu vois, ouais. DJ Premier, ouais. Pete Rock, qui ont précédé, qui ont ouvert le chemin à pas mal de beatmakers.
L'Arch Pro aussi, donc, tout à l'heure.
Et je pense que c'est là où t'entends certaines phases chronologiquement de Dilla, ou dans ses débuts de travaux, t'entends vraiment qu'il est en train de s'imprégner de Pete Rock, et même ces basses-là, moi je me référerais plus à Pete Rock même.
C'est vrai d'ailleurs ce qu'on dit, on peut lire ça sur Wikipédia, comme quoi Dilla aurait dit à Pete Rock, moi j'essaie d'être toi, au début de sa carrière.
C'est
quoi.
Possible, ouais.
Je pense que les mecs se sont parlé, ils se sont échangés énormément de choses. Et je pense que Pete Rock a surtout pris la pression quand il a découvert J. Dilla. Parce que pareil, il y a des choses que quand t'es beatmaker, tu te dis putain, j'arrive à faire ça.
Mais tous, hein, tous, je pense que tous ils sont pris la pression.
Parce que Pete Rock a eu son heure. Pete Rock a eu son heure avec cette caisse claire qu'il a fait des vlaies remix partout, une caisse claire qui marquait. Ah bon, avant Pete Rock, on était Marley Marl. Il y a eu Seiji de Ultramagnetic, Marley Marl. Après, il y a eu Primo. Mm-hmm. Toi, bon, il y a eu quand même beaucoup de beatmakers qui ont marqué leur temps et qui ont fait du hip-hop pur et dur. J.D. a contourné quelque chose et il l'a amené, et ces mecs-là comme Pete Rock ou même Primo se sont dit, mais d'où il sort ce mec?
Ah, c'est ça.
D'où il sort? Comment il peut faire ça avec la même machine? Ou pendant, alors je vais être un peu technique, ou pendant Pete Rock, Primo, Marley Marl, tout ça, il travaillait avec une SP 1200 où il y avait 12 secondes de sample. Ouais, voilà. Lui commençait à taffer sur la MPC, mais il allait plus loin que sur la MPC. La MPC 3000, il allait plus loin, hors quantise, et il arrivait à faire des choses. Il dit, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça avec ça. Mais si. Et c'est là que les Pete Rock se sont vraiment posé des vraies questions sur Dilla. Tu vois, et puis à un moment, ils l'ont encensé parce qu'il faisait vraiment des trucs assez incroyables, et qui fait que des Pete Rock, quand même, aujourd'hui, il te dit, c'est lui, hein.
La limitation technique de l'époque, ça rend la chose vraiment... Parce que là, on en parle, on est en 2026, je fais des instrus sur mon téléphone, Splice, tout ça, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vraiment incroyable parce que, comme il disait, la SP 1200, c'est même 5 secondes. Ouais. Et là, tu rentres dans un univers où il faut utiliser des techniques pour dealer avec le manque d'espace que tu as.
On en fait, parlait avec les curies, ça.
Tu vas sampler en... Par exemple, il y a une technique, parce que moi, du coup, j'ai essayé de faire ce chemin qui faisait à la maison, où j'ai commencé à acheter les machines, à essayer de faire des instrus de A à Z en achetant les vinyles pour sampler la snare, etc. Et tu as une technique qui consiste à, en gros, il faut que tu samples à 2, 3, 4 fois la vitesse sur ta SP.
Alors, sur la SP 12, si tu veux gagner du temps, le minimum, en tout cas à la base, c'était simplement que pour des snares, ou comme tu disais, des snares mais tu mets tout en 45 tours.
C'était une boîte à rythme, quoi.
Ouais. Tu mets tout en 45 tours et après tu détunes
dans la machine.
Dans la machine.
Tu transposes.
Après, et là, t'as ce qu'on appelle,
un aliasing.
L'aliasing qui arrive, qui donne tout le côté de la SP 1200, le grain qui est vraiment spécifique à la SP, que tu ne trouves pas sur la MPC 3000. Mmh. Alors, je sais que les gens vont nous dire, mais ils sont complètement fous, ils parlent de quoi? Mais c'est exactement ça, la diff. Mmh. La diff, elle est vraiment là.
Ne t'inquiète, on en a parlé pendant
deux heures. On a fait un épisode consacré aux machines. Mais en fait, c'est ça, c'est de la contrainte naît la créativité, quoi.
Exactement.
Et voilà, et en fait, je pense que J.D. là, typiquement aussi, c'est pour ça que je disais, lui, cette histoire de temps, de grid, de trucs qui tombent, la rigidité de la machine, il est complètement contrôlé.
Et ce qui est génial, c'est que je citais des gens comme Erykah Badu, comme Kanye, comme Pharrell, etc., qui citent J.D. là, mais en fait, l'influence réelle, on la voit aussi, quoi, avec Mono, qui est pas du tout de la même génération, qui découvre J.D. là, il est déjà décédé, et qui pourtant essaie de reproduire ses techniques à la maison, machin, etc., quoi.
Ah, c'est très formateur, en fait, c'est une école, en fait.
Une école.
Ouais. Et cette contrainte est tellement importante. Et je trouve que, en tout cas, pour moi, elle l'a été. Et je trouve que c'est tellement intéressant de se mettre dans ce processus où tu as cette contrainte. Ça rend ultra créatif, en fait. Quand tu as beaucoup d'options devant tes yeux, tu ne considères pas ce que tu as déjà acquis. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'allume un logiciel. J'ai la stéréo sur toutes mes pistes. Voilà. C'est incroyable. Alors que, en fait, tu as un mixeur pourri qu'on t'a prêté. Tu as 4 pistes. Tout est en mono. Et du coup, tu vas faire ta musique en mono. Tu te poses pas la question de savoir si tu peux t'élargir. T'as pas le choix. Et en fait, quand tu as une avancée technologique, des fois, il y a des choses que tu perds. Je pense que le capitalisme nous a fait croire qu'en fait, la version 2, elle est tout le temps mieux. Mmh. Mais en fait, là, en 2026, on se rend compte que tu fais un truc, une progression et tu régresses sur certains trucs, dont par exemple du confort d'utilisation, du feeling, etc. Comme les écrans cathodiques versus les écrans. Tu vois, les écrans. Alors, c'est un autre sujet, mais les écrans de gaming, tu vois, par exemple. Ben, c'est cool, mais en fait, là, maintenant, t'as une génération de gens qui vont de 30 à 50, 60, etc., qui vont faire du rétro gaming, qui vont utiliser des vieux écrans, parce qu'en fait, il y avait des délires de contraste, de profondeur,
de filtre,
d'aspect, de filtre. Ouais, mais de rendu général, de responsivité aussi du matériau, parce que ça, c'est un truc qu'on perd beaucoup avec les interfaces aujourd'hui, c'est que tu vas avoir beaucoup de ce qu'on appelle du délai. Ça veut dire qu'en fait, là, si je suis sur mon logiciel, demain, il y a de fortes chances que je sois heurté à une forme de délai, et ça t'en as un peu sur tous les supports. Mais quand t'étais sur ces supports là il y a un aspect, moi je sais que quand j'allume ma 2000XL, la MPC, donc le sampler,
c'est une direct autre, en fait, ouais.
une autre génération qui était à but d'être démocratisée d'ailleurs, ouais. C'est pour ça qu'elle a quelques défauts qui en font sa force, et en fait il y a un feeling en termes d'instantanéité
de réponse.
Et il y a ça dans les vieilles machines, ouais.
Alors, bon, même si Raph a essayé de saboter mon truc de collectif.
Mais non, parce que voilà.
On va essayer de trouver, on va y revenir, ça.
Oui, bien sûr. Effectivement. Donc, il y a The Human, en tout cas, qui est très important.
Donc, il se met avec Q-Tip, avec Ali Shahin Muhammad, et ils produisent pour plein de gens. Alors, tu disais, on ne sait pas toujours lequel réellement le font. Alors, tu l'as dit pour A Tribe Called Quest. Peut-être qu'on peut s'écouter d'ailleurs un Tribe Called Quest avec The Human ou avec JD derrière. Est-ce qu'il y a un morceau?
Il y en a plein.
Ouais. Lequel on pourrait écouter? Non, comment il s'appelle ça?
Oui, je vois ce que c'est.
Trop de mémoire.
Ah, ça, je vais avoir du mal à vous aider comme ça.
Ça va me revenir. Je vais le chercher.
Bah, je sais, il y en a un par exemple où il me semble qu'il y a. Est-ce qu'il y a JD dessus? Je sais pas. Stressed Out, qui est par exemple un gros tube avec Faith Evans. Je sais pas s'il y a JD dessus. Je crois que c'est The Yuma qui est crédité à la production. Est-ce que c'est JD exactement?
Tu vois comment le gars était discret là, on en parle.
Ouais, difficile de trouver.
Il faut trouver l'info, tu vois.
Après,
l'info est disponible, il faut juste la chercher.
Mais je pense qu'il était introverti de ce que j'avais. Toi qui l'as connu, Fab, tu.
Bah, c'est quelqu'un qui
était assez discret.
Assez discret, parce que de toute façon, on va y arriver. Hein, quand tu vois. Pour moi, la meilleure collaboration en soi de JD, mine de rien, c'est quand même quand il arrive à trouver quelqu'un qui arrive à lui faire tiquer en disant: ah, lui, c'est un problème. Madlib.
Oui. La collab est folle. Hein.
La collab, elle est super.
Les deux, ils se sont dirait que les cerveaux sont rentrés en connexion.
C'est ouf parce que si tu regardes Madlib, c'est quelqu'un qui. Alors moi, j'aimais pas son travail, il ne finissait pas tout le temps.
Il n'a jamais fini d'ailleurs.
Il n'a jamais fini. Il a plein d'idées, ça part dans tous les sens, coin de tête, machin. Donc tu vois, il fait des trucs, mais voilà. Et JD, c'est quelqu'un de minutieux.
Ouais.
Qui va au bout des trucs, sauf après moi c'est que mon avis, sauf le Donuts qui est juste des ébauches de sans
rempli avec tout le monde.
Ça lui donne un charme de fou.
Moi il m'a touché de ouf.
Ouais, mais moi aussi je trouve ça des charmes.
Mais moi pour moi c'est des ébauches. Pour moi c'est juste des ébauches. C'est quand je le prends le disque là, quand il tombe dans mes mains, je fais ouais, c'est une loupe.
Bon alors attends, on en reparlera. Find a way, c'est son dernier album de survivant.
Find a way, mais Find a way par exemple. Bon c'est vraiment sur le dernier album, c'est sur The Love Movement, c'est pas sur lui d'avant, mais bref.
Ouais.
Et puis on s'écoutera un Madlib aussi après.
Un tout obligé.
Allez, find a way. A Tribe Called Quest.
Messing me up my whole head, teasing me just like Tika did Martin. Now look at what you starting. Schoolboy crushing it, ain't on the hush, the whole world see it, but you can't. My peoples they complain, sitting rave and rant.
Come on.
Your name is out my mouth like an ancient chant. Got me like a dog as I pause and pant.
Speaking of which, got a leash and a wish just to rock you, miss. Make a militant move, beat my strategy.
What?
End of the day, you're not mad at me. Not dealing with nobody, now that's what you told me.
What?
I said, hey, yo, it's cool, we can just be friendly. Cause yo, picture me messing it up. Her mind not corrupt with the LC cups.
Huh?
Shit. I'm on my J.O.
Come on.
Bullshit and hoping that the day goes slow.
Wow.
Got me like a friend, what confuses me though is kisses when we breathe, tell me what's the deal, yo.
Yeah.
Now you caught my heart for the evening. Kiss my cheek, moved in, you confused.
Tuesdays. Should I just sit out or come harder? Help me find my way. Now you caught my heart for the evening.
Qu'est-ce que c'est bien ça aussi, hein?
Ah bah oui. Ce qui est dingue dans ce morceau, enfin ce qui est dingue dans Tribe Called Quest, c'est que mine de rien, celui qui se rapproche le plus de JD en vraiment en amitié, c'est Five Dog.
Okay.
Mmh. Énormément avec JD, tu vois, je veux dire. Donc c'est parce que Q-Tip, comme je vous dis, bah, c'est, je le sais sur ce sûr, il a pompé beaucoup de choses qu'il a nommé à son nom, mais il a pompé beaucoup de choses. Après, voilà.
Ça faisait partie du business.
Oui, aussi, ouais, c'est devenu un business.
Mais c'est marrant parce que je crois que c'était Q-Tip en plus qui expliquait que quand il cherchait des samples chez le disquaire, tout le monde s'espionnait et que du coup, regarder des trucs.
Bah, à New York, je vais aussi.
Pas les prendre. Ouais,
à
ouais.
New York, c'est les histoires des DJ de New York dans le hip-hop dans les années 80. Qui, sur les vinyles, vont faire exprès de rayer le nom sur les disques pour pas qu'on crame, quoi.
Il y a eu. Keops a fait
Keops,
ça.
C'est ce que j'allais dire, je pensais en France à Keops d'Ayam qui faisait ça aussi. Mais voilà, là typiquement, on a l'exemple de l'influence du son de Jay Dilla sur le son de Tribe Called Quest, qui n'était pas très éloigné. Il y a une filiation de grand frère à petit frère, quoi. Ouais, mais lui, du coup, on l'entend en termes de groove, là. C'est-à-dire cette caisse claire en termes de micro-timing, encore une fois, qui est un tout petit peu en arrière, mais qui donne ce groove si particulier.
Les basses, c'est les shakers. Ouais. Les shakers.
Les shakers aussi, bien sûr.
Le fait que la snare est pop comme ça, c'est parce que les shakers, ils sont.
C'est ça.
Ce que je te disais tout à l'heure sur. Il y a plusieurs univers qui coexistent en même temps. C'est
chacun
comme une locomotive. T'en as un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Et
c'est l'interaction de l'ensemble.
L'interaction de l'ensemble qui crée ce truc-là. C'est pas la snare toute seule, c'est le fait que derrière il y a un truc qui se pose tranquillement et personne n'est vraiment sur le métronome, tout est un peu ensemble sans être ensemble.
Pour rebondir là-dessus et un truc que disait Fab tout à l'heure sur le fait qu'il a complètement conscientisé ça, Dilla il était très attentif au batteur en fait dans les vieux disques qu'il écoutait, et quelqu'un comme Clyde Stubblefield qui était le batteur de James Brown, qui est le fameux breakbeat funky drummer. En fait, quand on écoute Funky Drummer, c'est pas droit.
Qui a pas été assez crédité, cet homme.
Qui a pas assez crédité. Donc, c'est important qu'on dise son nom à lui, Clyde Stubblefield. En fait, quand t'écoutes ce break, le fameux. Bref. Mais là, moi, je le fais même comme ça, je suis droit. Il y a du groove, en fait, parce que c'est un batteur et donc il y a un feeling rythmique très spécifique au funk où c'est un peu brinque-ballant, quoi. Et c'est ça qui donne le truc cool. Et en fait, JD fait exactement la même chose. Quand
il machine.
Voilà, c'est vraiment un finger drummer, quoi.
Bon, on se le met quand même parce qu'effectivement, le funky drummer, ce break de loop...
Emblématique.
Ça a changé l'histoire de la musique.
Voilà.
Ouais, bien sûr. C'est Gainsbourg qui reprend ça aussi. Ouais.
Requiem pour un con.
Exactement, ralenti.
Et donc voilà, ce feeling rythmique très spécifique au funk, en fait, justement, où c'est pas exact et c'est pas très grave, c'est ça qui est trop cool. Et en fait, JD fait la même chose quand il fait du drum programming juste en jouant, en fait, librement, en fait, sur sa machine, sur ses pads, etc. Et c'est ça qui donne le funk, en fait. Le funk de ses propres productions, lui, quoi.
Yazi Yumaz, pour qui d'autre d'ailleurs, hormis A Tribe Called Quest,
Busta Rhymes par exemple, sur The Coming.
Est-ce qu'il y a d'autres grandes stars comme ça, ou c'est des mecs plus underground aussi, et pour qui ils vont produire?
Oh, ils produisent pour plein de gens, là j'ai plus les noms en tête, mais pas mal
je vous dis ça
monde.
Grâce à mon ami Wikipédia.
Oui, The Yuma, ils produisent pour beaucoup de gens sur la deuxième moitié des années 90.
Ok. Et en parallèle, ils continuent avec Slum Village. Comment?
Oui.
Est-ce que c'est un mec qui est... Parce que, en fait, t'as l'impression.
Keith Murray.
Ah, moi aussi, par exemple.
Parce que c'est un type, t'as l'impression, entre ses projets.
Il fait des trucs aussi avec Daz FX, mais je sais pas si c'est Daz FX qui pose sur une de ses prods, mais bon, enfin, il y a eu plein de trucs,
Il s'arrête jamais, le mec.
Non, parce qu'en fait, il est. Alors, un truc qu'on peut raconter d'intéressant.
La productivité du type.
pourquoi il est productif comme ça? C'est parce que, je le disais, à Détroit, avec Proof, notamment de futur D12, en fait, Proof, il crée un truc, c'est les Beat Battles. Il y avait les battles entre MC, mais il fait les beat battles. Donc il dit, voilà, il y a trois disques, deux producteurs s'opposent, chacun donne des disques à l'autre, et vous avez 20 minutes pour produire des trucs.
Et ils font pas ça pour des vidéos YouTube à l'époque.
Non,
ils font juste pour eux.
Pour la compète, pour la beauté de l'art, tu vois. Et en fait, effectivement, ça lui apprend la discipline. C'est-à-dire que, en fait, JD, avec son esprit un peu fou et créatif, il est capable de faire des beats qui défoncent très vite. Si bien que, et on avance, et ça va permettre de connecter avec un autre collectif qui est effectivement les Soulquarians, avec notamment Questlove de The Roots. Une fois, ils sont enfermés à cause d'une tempête de neige dans la cave de JD à Détroit, Et en fait, il commence à faire un beat battle Questlove et JD. Et en fait, JD, il est capable de te retourner des samples hyper rapidement sur des trucs ultra grillés que lui file Questlove en disant tu seras incapable de faire un truc nouveau avec ça. Et en fait, JD, parce qu'il vient de cette école-là de il faut être créatif et inventif très vite. Donc en fait, évidemment, entre la fin des années, enfin sur la deuxième moitié des années 90, il est capable de produire énormément très vite.
Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a parlé un peu avant l'émission, mais non, on peut en reparler là rapidement pour nos auditeurs. C'est le fait que parfois, il y a la recherche du sample rare. Et puis parfois, il y a aussi des mecs qui disent « Non, non, moi, je prends le truc, je vais diguer, mais c'est ça. C'est, quelle approche ils pouvaient avoir ?»
En fait, je pense qu'il y a un truc presque folklorique aux morceaux qui sont invoqués dans sa discographie, ce qu'il a samplé. C'est plus comme certaines... Des fois, j'entends des Madeleine de Proust. C'est genre... Je pense qu'il y avait des trucs...
Il pouvait prendre des trucs hyper connus.
Hyper connus. Et moi, avec mon parcours de digging maigre, mais où je suis allé un peu à droite, à gauche, et j'ai digué, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai remarqué, en fait, en allant en Amérique du Nord, notamment à Toronto, où il y a mon frère, et un peu à New York aussi, très vaguement, j'ai capté qu'en fait, il y a plein de trucs que lui, il a samplé, qui sont littéralement dans les bacs à vinyle des magasins de vinyle qui sont pas forcément les plus chers, qui sont juste que tu vas trouver à côté de chez toi, les Four Tops, enfin je sais pas, tu vois toute la Soul, la Motown, etc., Tamla, etc. Et je pense que j'ai ressenti ça sur Donuts aussi, je crois qu'il y a vraiment ce truc non excusé, totalement assumé et presque dans ta chair, genre ça, c'est mon background et en fait ça ressort comme ça, tu vois. C'est ce que j'ai perçu en tout cas.
Là-dessus, Fab, parce que toi, le sampling, ça fait partie de ta culture.
Oui.
Il y avait ce truc chez JD, parce qu'on sait chez certains, voilà, ce truc de chercher la perle rare pour diguer.
Tout le monde, enfin, tous les diggers de mon époque, on a toujours cherché le disque de la perle rare. Mais je pense que tous les beatmakers et que je connais même maintenant, on a tous trouvé la perle rare du sample. Mais le problème, c'est que, enfin, pas le problème, c'est que après, il faut avoir le MC. C'est bien de... Tu peux avoir une boucle qui tue, mais en fin de compte, tout ça, c'est un ensemble. Tu vois, je veux dire, pour moi, c'est un ensemble. C'est comment tu tapes tes rythmiques, comment tu prends la boucle, et après, qui pose dessus.
Là, on revient au rap, c'est-à-dire que JD, sans ses collaborations avec des bons rappeurs, c'est pas tout à fait JD.
Non.
Ça reste des super prods, mais tu vois qui c'est qui pose dessus.
Eh oui.
Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça conditionne, pardon de te couper, ça conditionne la production, c'est-à-dire que t'as une certaine limite. Moi, c'est un truc que j'ai vu tout seul, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais c'est mon vécu. Ta prod va conditionner comment la voix peut se poser dessus et si ta prod devient trop complexe d'une certaine manière, tu vas bouffer la place de la voix. Et donc quand on écoutait par exemple les kicks sur Running, ce qui est assez mémorable, c'est qu'il y a quand même un propos qui est rythmique, ça s'assoit, il y a des petites douilles à droite à gauche et pourtant la voix peut se poser dessus, tu vois. Et ça, c'est quelque chose
qui est... Parce que les MC sont bons.
Ouais. Ben oui. Et c'est un morceau, je le citais, Still Shining de Busta Rhymes par exemple, c'est un peu le même délire que Running, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, même parfois il enlève des caisses claires. Et en fait, bah, Busta Rhymes, parce que c'est Busta Rhymes, qui est complètement fou, il dit bah, elle tue cette prod, c'est un défi pour moi, je vais y aller. Et en fait, il fait rien toucher à JD à sa prod, il fait non, laisse-la comme ça, et moi je vais écrire de telle sorte à ce que je rebondis sur tes drums.
En fait, il s'insinue dans les espaces.
Ouais, c'est ça.
Mais après, il y a quand même pas mal de prods où moi perso, des fois, je me dis j'aimerais bien là que le rappeur il arrête de rapper. Juste pour laisser respirer.
Je pense que dans la longévité, du coup, ça fait que là où la prod, des fois, avait un but peut-être un peu usuel, j'ai presque l'impression que ça s'est perdu et que ça s'est retranscrit dans un truc où c'est devenu juste de l'art absolu, de la musique, et que ça a influencé des gens où finalement l'instrumental qui était censé être le truc dans le fond, c'est devenu un propos à part entière. Ouais. Et les jazzeux, ils ont repris certaines idées de Dilla, etc.
J'ai même envie. Oui, vas-y.
Je pense que tu le sais, c'est qu'il y a eu un Philharmonique qui a repris le thème de J. Dilla.
Oui, tout à fait.
Avec, c'était Karim à la batterie, non? Karim Riggins.
C'est vraiment un Philharmonique énorme. Okay. Moi, je l'ai eu par...
Donc un orchestre qui reprend de J. Dilla.
Oui, c'est après sa mort.
Ouais, après sa mort, qui a repris presque certains titres de J. Dilla et qui rejoue tout ce qu'a fait J. Dilla.
Tu vois Fall in Love, par exemple.
Ouais, de toute façon, ce lien avec la musique instrumentale, alors il y a du bon et du mauvais dans ça, mais mine de rien, on sait que toute la scène dite lo-fi, hip-hop, lo-fi,
c'est ça,
etc., qui a été hyper importante, qui l'est encore d'ailleurs, tous les Chilco, Lo-fi Girl, etc., c'est des mecs qui ont été biberonnés à deux mecs, c'est J. Dilla et Nujabes.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Complètement.
Et là, c'est effectivement purement instrumental et ça touche.
Bien sûr. Quoi. Tu vois, c'est là où on parlait de mainstream et là, les playlists lofi dans les cafés qui vendent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc de fou. C'est genre, on n'aurait pas eu ça s'il n'y avait pas eu Dila, franchement. Hein, parce que t'écoutes toutes les playlists.
Aussi, hein.
Ouais, c'est fou. Aussi, hein, c'est fou. Ouais. C'est vraiment dingue. Là, c'est fou que ce soit aussi posthume. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup cogiter.
La postérité, elle est off.
Ouais, est-ce qu'il y a des trucs quand même, d'ailleurs, de hip-hop lofi que vous aimez bien, un artiste intéressant qu'on pourrait s'écouter pour voir effectivement cette filiation?
Déjà, lofi, c'est bizarre comme nom, tu trouves pas?
Bah oui.
Moi, j'arrive pas.
C'est une vraie scène. À la base, c'est un qualificatif.
Lofi, je m'y fais pas. En fait, c'est juste de la musique d'ambiance, quoi.
Ouais, mais c'est
avec
c'est...
des breaks hip-hop.
En fait, c'est devenu une vraie scène parce qu'il y a des gens qui sont reconnus, qui sont mis ensemble, etc. pour faire cette musique.
Ouais, mais les beats de Reza, c'est du lo-fi aussi.
Bah ouais.
Tu vois?
C'est de l'extra lo-fi, vois, c'est ça le truc.
Tu vois,
non,
en fait.
Non, mais je comprends.
C'est comme le mot alternatif dont on parlait tout à l'heure.
Ça veut rien dire.
Et en même temps, quand on dit la scène alternative et qu'on dit. Tu vois, ça évoque quand même quelque chose.
Ça évoque quelque chose, mais ça décrit rien.
Ah, ça suffit. Parce
que lo-fi, la musique de 36 Mafia, elle est lo-fi. Tu vois?
Donc en termes de qualité, oui, elle est très lo-fi.
Tu vois, match à la télé, je crois.
Match à la télé, non.
Oh, tu peux, mais le café va s'enjailler quand même. Non, en fait, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des filtres à balles.
Oui, c'est ça. C'est parce que
des petits
le petit piano, la petite drum décalée. T'écoutes ça pour étudier parce que je crois qu'il y a eu ça aussi.
Surtout.
Épuré, ouais.
Épuré, toi. Donc épuré.
Peu de fréquence. Ouais. Là où tu vois en 2010-2015 dans la musique, il y avait un truc où la gamme de fréquence, tout est.
Ouais.
On a beaucoup d'infos. Les subs, elles vont très basses. On a beaucoup de subs, tu vois. Alors que quand t'écoutes de la musique dans les années 70, de la salsa ou des trucs comme ça. T'as pas autant de bandes de fréquence, tu vois. Du coup, là, hop, ça resserre un peu, c'est plus calme.
Ouais.
Effectivement, le petit craquement de vinyle, le petit bruit de pluie, machin, etc.
Et là, du coup, je reprends la perche que tu as tendue tout à l'heure. J'essaie de reprendre sur le truc de.
Je te remercie,
merci, Raph. C'est que je pense que cette influence-là de Dila sur effectivement tout ce qui va être lo-fi, etc., ça doit beaucoup à son travail avec les Soulquarians. Et donc, là, tu poses la question.
Mais qu'est-ce que c'est les Soulquarians?
Voilà, du coup on y vient. Effectivement, donc à la fin des années 90, via toutes les rencontres que fait Dila via le voleur là, tout ça, enfin tout ce qu'a dit.
Attendez, ne concentrez pas sur ça, c'est juste que
je te taquine.
Mais on me le redira quand même que Q-Tip.
Oui, mais réduire Q-Tip à un voleur, c'est dur.
Non, je taquine. Non, mais en gros voilà, il s'avère que plusieurs de ces personnes sont des Verseaux. Aquarius.
Leur signe astral, vraiment.
Ouais. C'est le cas de JD, c'est le cas de Questlove, c'est le cas d'Ali Shahid Mohammed, de Tribe Quest, et c'est le cas de D'Angelo. Ouais. Et peut-être même Erykah Badu. Ouais. En tout cas, je sais que c'est ces quatre gars, en fait, se rendent compte qu'en fait, ils sont tous Aquarius, ils sont tous Verseaux. Et il y a je sais plus comment, c'est sûrement raconté dans le bouquin, là, ça me revient plus, mais il y a cette idée de Soulquarians, parce qu'ils viennent tous un peu de cette musique-là, en fait, à un moment donné où il y a une. Il y a une communauté d'esprit un peu justement sur le fait de vouloir faire renaître un certain feeling dans la musique, alors que dans le rap et le R&B des années 80, fin des années 90, on est sur cette période du jiggy rap, des shiny suits, de
Fabulous, Will Smith.
Ça avant Fabulous, c'est plus la période effectivement Will Smith et puis surtout Puff Daddy, tu vois, Maze, etc. Ouais. Sur une
un
musique
bling bling quoi. Un peu.
Ouais.
C'est avant qu'on parle vraiment de bling bling, ouais, puisque vraiment, ça c'est plutôt Cash Money avec le morceau de Bee Gees qui sort.
Non mais
en
genre ouais, les doudounes brillantes.
Et puis tu sais les samples ultra grillés,
les tunnels,
là où il y a plus de travail vraiment très fin, tu vois.
Quand P. Diddy prend The Police avec Faith Evans.
Par exemple.
Mais là, t'es loin. Parce qu'en fin de compte, Soulquarians, c'est aussi un peu le début aussi de ce qu'on appelle de la New Soul.
La New Soul,
oui,
ouais,
tout à fait.
Ouais,
tu vois, donc
ouais,
on
ouais.
est beaucoup sur quelque chose un peu plus mélo.
Oui, tout à fait.
Bah, de revenir à l'essentiel par rapport effectivement au R&B qui était complètement dévoyé, en fait.
Il n'était pas dévoyé, mais c'était un son qui était beaucoup plus brillant. Avec des producteurs comme Rodney Jerkins aussi, ce genre de truc. Donc en fait, simplement, je pense qu'il y a une communauté. Il y a une communauté d'esprit qui se crée et en très peu de temps, en fait, ils travaillent tous ensemble sur quasiment tous les albums. Il y a Badouism, il y a Voodoo de D'Angelo et il y a Like Water for Chocolate de Common.
Je crois même que ça commence une année avant. Il y a Things Fall Apart de The Roots, je crois déjà qu'il y a pas
tout
mal
fait,
de
oui, tout à fait. Sont... Bah, Questlove est complètement traumatisé en fait. On parlait de rythmique, du sens rythmique de JD. Il est traumatisé, il ne comprend pas ce qu'il entend.
Il va s'enfermer un an après pour. Enfin, c'est ce qu'il dit lui, tu connais. Les légendes après.
Ouais, bah après peut-être qu'il y a
une part de Love qui est un batteur.
Ouais, qui est un batteur vraiment.
Et qui avait peu... donc on en parlait hors émission, mais oui, il y a une interview de lui où il explique que la première fois qu'il entend les beats de JD, il a l'impression, il le dit lui-même, d'entendre la batterie jouée par un gamin de 2 ans ou 3 ans bourré. Mmh. Tu vois, il a l'impression d'entendre un drinking 3 years old. Quoi.
Mais vraiment, après, il a comme beaucoup une espèce d'épiphanie. Il fait, mais je veux rencontrer ce mec, je veux savoir comment il fait en fait. Qu'est-ce qui se passe quoi. Ça perturbe.
Il n'y a pas un rapport à Electric Ladyland d'ailleurs avec cette histoire de Soul Koreans, parce que je sais qu'il parle souvent de studio A, oui, studio B, studio C.
Tu veux dire le studio de Jimi Hendrix.
Ouais, ouais, dans le sens où pendant qu'il y a Vaudou, il y a aussi je sais plus quel autre album. Et genre, tu as l'un et l'autre, ils vont passer d'un studio à l'autre
notamment l'Equator for Chocolate, tout à fait oui. Voilà.
Alors d'ailleurs parce que je crois pas que tu les as tous cités, mais on met un peu dans le Soulquarians, il y a énormément d'artistes différents trop forts, donc Jay Dilla évidemment, Erykah Badu, Bilal, Common, D'Angelo, Talib Kweli, Mos Def, Rafael Saadik, Q-Tip, James Poser, Questlove et même
Karim Khridin, je crois qu'il arrive un après, petit peu après je crois si je
après il y a pas mal de gens qui gravitent dans cet univers, je pense Roy Hargrove, Pino Palladino, etc. Alors,
Pino Palladino qui est très important,
immense musicien quoi.
Très très important notamment sur Voodoo qui a une grande importance sur Voodoo justement,
et c'est là où en fait ce qu'on disait en introduction, à savoir JD, oui légende du rap mais en fait légende de la musique tout court, c'est que là on vient de citer parmi les plus grands musiciens de la planète et qui vont bien au-delà du rap
et qui sont en fait tous traumatisés par, encore une fois, cette approche rythmique complètement différente. Et cette approche rythmique, mais aussi cette manière de découper les samples. Et ça va de pair avec lui. Mmh. Et là, ça permet de reboucler avec plein de choses qu'on a dit. Et sur le truc des Soulquarians, typiquement, il y a un morceau, moi, que j'adore, de produit par JD sur l'album L'Equator for Chocolate de Common. C'est le morceau de Doin' It, où il reprend un sample de Rick James qui est ultra connu.
Light, mais on peut écouter les deux peut-être.
On peut peut-être écouter les deux. Mais en fait, pourquoi Doin' It ? Parce qu'en fait, il reprend un sample de Rick James qui est Give It To Me Baby, qui est un truc ultra connu, ultra grillé, etc. Et Questlove le met au défi de sampler ça et il te retourne le truc de telle façon à ce que tu reconnais pas vraiment ce que c'est. Tu dis, j'ai l'impression que je le connais, mais t'es pas sûr. Et puis, c'est tout le groove de JD qui est dedans. Donc, ouais, Doin' It de Common, sur cette époque-là et sur comment il produit avec les Soulquarians, c'est emblématique, quoi.
Donc, on est en 2000 sur l'album L'Equator for Chocolate et c'est Doin'
It. Qui a été fait dans la cave de JD avec Common qui dormait sur.
C'est ça.
Parce que c'est vrai qu'on l'a. Ouais. Tu fais bien de dire ça, si on n'a pas précisé que c'est un mec qui était aussi connu pour être une forme de home studiste en fait.
Il
faisait
ça,
tout
ça,
à la maison.
Il faisait tout d'abord chez lui.
Il détestait après, voyager.
Ouais, voilà. Déjà. Ouais. Et il faisait tout d'abord en bas de chez lui. Et c'est comment on a fait tout l'album chez lui en, je crois, un ou deux mois. Il dormait sur le canapé et la maman faisait à manger. Et voilà.
Et ça, je pense que c'est l'un des secrets de sa longévité. Et pourquoi il parle encore aujourd'hui aux musiciens qui sont justement des home studistes en fait, qui font à la maison. Je suis sûr qu'il y a un lien dans tout ça avec la démarche d'être à la maison avec des machines quoi. Bon, Doin' It. Keep on, 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 keep on. Motherfucker, move back. I pursue rap at the pace of a new jack. It's miscellaneous numbers and shoes stack. Bruised rap I deliver for the hungry and underprivileged. Something different from these hollering, grunting niggas. This is business strictly. Step to my business is risky. Especially when you was bitches missy. Back to back LPs that sound the same. I surround the game with a 4-pounded brainstorm to make niggas dance in the rain. Scared to take a chance in the game. Used to break dance, it's a shame. What money do to a nigga brain? If he loses soul, what did a nigga gain? Do it, do it, do it, do it. Yeah, I am doing this. Do it with it. I am doing this. COMMO to the end. Do it, do it, do it, do it. I am doing this. COMMO to the end. My train of thought is that of a hustler or a nigga with his shirt off trying to get his work off the customers. Ouais,
c'est le plus bel album de Common quand même. Hein.
Je suis d'accord avec toi.
Bi,
c'est un bel album.
Mais je pense c'est un bel album, mais c'est le plus bel.
Je pense que L'Equator for Chocolate, c'est son plus
et
bel.
Et même, je te balance, Raph, tu me disais avant l'émission que tu considères que c'est peut-être parmi le travail le plus accompli de JD. Quoi.
Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que, en fait, ce qu'il fait en termes de variété de production.
Bien sûr.
Sur, tout en étant très fidèle à lui-même, des morceaux comme Nak Champa, comme The Light.
Qu'on va écouter au bout d'un moment.
Voilà, c'est ça. En fait, tout ce qu'il est capable de faire avec très peu de choses, finalement, à chaque fois, il a un sample, en fait, il te le retourne.
Ouais, c'est minimaliste en fait.
C'est très minimaliste. En fait, tu sais, c'est à quel moment un musicien, il est à son prime, au top de ses capacités, sans en faire des caisses, quoi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce qu'il arrive à faire sur ce disque, quoi.
Bon, on s'écoute un extrait de The Light, ça vous.
Allez, bah, c'est un gros tube. Pour le coup, ça, c'est vraiment
un gros tube. Mais c'est tellement bien. Mode mono qui réagit sur le chien, tu vois.
I never knew a la like this. Gotta be something for me to write this. Queen, I ain't seen you in a minute. Wrote this letter and finally decide to send it. Signed, sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's spin a slow forever. I know your heart is weathered by what studs did to you. I ain't gon' start them cause I probably did it too. Because of you feelings I handle with care. Some niggas recognize your life but they can't handle the glare. You know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort, I will match your work. I wanna be the one to make you happiest and hurt you the most. They say the end is near, it's important that we close to the most high. Regardless of what happened, on him let's rely.
There are times when you need someone.
Yeah.
Alors, maintenant qu'on a parlé du fait qu'il s'était fait bite pour Do For Love,
ouais.
Est-ce que c'est pas une vengeance de faire un morceau avec du Bobby Caldwell aussi?
On l'a jamais su explicitement, et dans le bouquin, je suis allé dans ce truc-là.
Ouais.
C'est une hypothèse de Dan Charnas,
okay.
Qui dit, en fait, il est tombé sur sample et il s'est sans doute dit que c'était une belle manière de se venger.
Et c'est d'autant plus crédible qu'il y a une histoire réelle de vengeance, y compris dans le nom, c'est justement sur le Janet Jackson dont on parlait. Il a fait un remix qu'il a appelé JD's Revenge.
Ouais.
Oui, effectivement, il a remixé
le morceau. Il est très chaud d'ailleurs celui-là.
Ouais, le remix Revenge de What's Is Gone, il est chambé. Ouais.
Ah bah vas-y, on peut s'écouter un extrait.
Bah oui.
Bah, est-ce qu'il faudrait pas s'écouter l'original
Bah on l'a écouté en intro,
on a mis un tout petit extrait. Attends, ouais. Ok, vas-y, c'est quoi? Parce que c'est vrai que l'original c'est
un AB.
C'est une folie comme
ça. C'est quand même une frappe, hein, putain.
Moi je trouve que c'est l'un des morceaux mainstream les plus stylés de tous les temps.
Cet album de Janet Jackson est assez fabuleux.
Velvet Rope, ouais.
Ça c'est l'original.
C'est tellement JD la cotille.
Ah ouais, c'est du clone, hein. Mais tout le monde dit que c'est JD là. Tout le monde dit que c'est JD là. À la base, si t'écoutes le remix, c'est pas ça.
On va l'écouter.
J'écoute c'est là, ça. Je me dis pas. Non,
Dila, il aurait pas fait comme ça.
Change, ouais. Il aurait pas fait la basse avec le release comme ça, avec la longueur.
Même la caisse claire.
Bah, les gars, on va tout de suite vérifier comment il l'aurait fait, puisqu'il a fait ce remix.
Voilà!
Mais il pouvait pas marcher ce.
Non, c'est trop agressif. Il était pas content, Jay-Z.
Il a changé la tonalité des...
Il a changé des accords. Ouais. Il a gardé le début de la grille et il a changé un accord au milieu, c'était pas exactement le même. Mmh. Il avait ce genre d'accord là où moi, perso, ça a été une influence aussi, ça.
C'est quoi son genre d'accord, vas-y.
Bah, je sais pas, Dilla, il avait une manière spéciale d'entendre l'harmonie quand même. Des fois, il y a des cadences. Donc, quand tu dis une cadence, c'est un mouvement harmonique. Il avait des points de tension où il va mettre des notes que t'entends rarement dans ce style de tournure.
Alors c'est hyper intéressant parce que tu m'as en préparant l'émission, tu m'as envoyé une petite vidéo justement avec un fiddler.
Ça m'a tué.
Raconte ce qui se passe parce que c'était pas un claviériste, Dilla.
Non, c'était pas, enfin, de ce que je sache, c'était pas un claviériste.
Et pourtant, tu dis qu'il a des accords géniaux. Alors, une partie de son génie, explique-nous là ce qui est dans cet
gros,
exemple.
Il y a une vidéo qui traîne sur internet de M. Fiddler, justement, qui a récupéré des sessions de JD, ouais, et qui te montre, alors je sais plus exactement quel morceau, mais bref, je rejoue la séquence sur sa machine, sa MPC.
La MPC de JD.
Il te montre, regarde, en fait, les accords que tu entends derrière dans cette musique.
C'est l'intro de Fantastic.
C'est l'intro de Fantastic.
Enfin, du volume 2, quoi. Mais ouais.
Et les accords que tu entends, en fait, c'est juste un échantillon d'une note de piano. Il a rejoué toutes les notes sur le pad de sa MPC. Alors, est-ce qu'il les a fait en même temps ou en séparé? Je sais pas. Mais en fait, le résultat est que quand tu l'entends, t'as l'impression d'entendre un claviériste jouer.
Donc, le mec a fait la base d'un accord, c'est-à-dire note par note jouer sur sa MPC.
Oui, et surtout,
surtout,
au-delà de ça, c'est que ça sonne vraiment comme quelqu'un qui aurait pu envoyer un petit truc. Ouais. Quand tu l'entends, t'as l'impression de voir quelqu'un qui. Alors que c'est un gars sur sa MPC, ça veut dire qu'il a une projection, son oreille projette vraiment bien, tu vois, dans la machine. Et ça c'est au-delà de tout support technique de toute époque. En fait, c'est là où il y a un truc un peu essentiel, absolu, où je trouve que les époques se confondent, comme on parlait tout à l'heure du batteur de James Wan. Il y a un truc où ça marque son micro timing. Moi, je l'ai entendu quand tu peux écouter Art Tatum, et tu vois, entre JD et Art Tatum, je sens il y a quelque chose qui se rapproche, c'est presque une question de personnalité, peu importe de l'époque, en fait.
T'as parlé tout à l'heure d'un album d'Erykah Badu. Alors, tu parlais de Baduism, mais est-ce que c'est vraiment Jazz for Aquarians ou c'est pas sur l'album d'après Mama's Gun?
Ah, c'est sur Mama's Gun, pardon.
Je pense, hein, ouais.
Tu as raison, c'est sur Mama's Gun, autant pour moi. Oui,
parce qu'il y a un morceau. J. Dilla a participé à la production de Mama's Gun.
Oui, tout à fait.
Et donc, surtout l'album, bon, l'album est trop bien. On peut s'écouter un extrait, comme ça, ce serait un peu encore un truc différent. Dinan Chano, par exemple, si ça vous va.
Allez.
C'est avec un blues, ça.
L'original. Ah oui. C'est bon. C'est bon, hein.
Elle est de base, pardon.
Il y a cet album qui apparaît régulièrement parmi les plus grands albums de l'histoire même, qui est Voodoo de D'Angelo. Mm-hmm. Et j'en parle pourquoi? Parce qu'en fait, JD n'est pas dessus.
Non, en fait, il a travaillé dessus. Il aurait dû avoir des morceaux dessus, finalement, il les a pas.
Alors, c'est là où on voit que les artistes de légende...
Ils vont sortir bientôt, t'inquiète.
L'un des points communs avec tous les artistes de légende, c'est qu'il y a des histoires autour d'eux. Il y a des mythes, on raconte des trucs, est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est pas passé. Par exemple, JD, son implication dans Voodoo, j'ai l'impression que personne ne sait exactement. Si, on le sait exactement.
Dans le bouquin, en tout cas, c'est documenté. C'est complètement raconté, en fait, parce qu'il y a tous ces albums qui sont faits en même temps. JD, vraiment, parce qu'à la base, pour remonter à cette histoire-là, quand Q-Tip fait découvrir J. Dilla un peu tout le monde, D'Angelo vient de sortir son premier album Brown Sugar et il veut faire un remix d'un de ses morceaux qui est These Dreamy Eyes of Mine par J.D. Okay. Et en fait, finalement, ça se fait pas. Ou en tout cas, c'est pas sorti par label. Peut-être que ça se fait, c'est pas sorti par label. Bref. Mais en fait, comme après, ils deviennent une espèce de communauté où en fait, ils vivent, ils font de la musique constamment. C'est, en fait, c'est un buff constant, ce qui se passe dans ce fameux studio Electric Lady. Et effectivement, il y a eu des morceaux composés, produits par J.D. pour ce disque qui finalement ne sont jamais sortis.
Je sais que par exemple.
Je te dis, je pense que Ma Duke a tout.
Ah oh oui, c'est possible, hein. Oui, complètement.
Mais je pense que c'est encore une question d'argent, de droit, et qui arriveront à sortir un jour ou un autre, ou qui vont fuiter, mais ça va sortir.
Je pense qu'il était dans le mix aussi. Il devait y avoir, tu sais, un petit tuning de snare ou un petit avis, tu sais, comme tu vas voir en fait tes amis au studio, quoi.
Est-ce qu'il y a un truc paradoxal, c'est qu'on a parlé du fait quand même que c'était un mec hyper timide, un mec plutôt de home studio, plutôt à la maison, etc. Par contre, il pouvait vraiment participer à des sessions studio, genre Electric Ladyland, etc.
Ouais. Alors, c'est une des rares fois, je crois, où c'est documenté où vraiment il était loin de chez lui comme ça, très longtemps, quoi. À part ensuite quand il va à Los Angeles, quand il commence à traîner avec la clique Strunsrow et qu'il tombe malade et qu'il est hospitalisé là-bas. Mais sinon, oui. C'est une des rares fois où vraiment il a quitté son petit cocon de Détroit pour bosser longtemps avec des gens. Mais je pense simplement parce que là, il était en confiance. En fait, ils ont réussi à le rassurer, peut-être à dompter un peu le
mec.
C'est
lié à son talent aussi. C'est lié à son talent dans le sens où c'était un musicien pour moi. C'était un musicien, la manière dont il utilisait son outil, peu importe.
Un instrumentiste, presque.
Ouais,
tu veux
un
dire,
instrumentiste, ouais. C'est-à-dire que je pense que je projette, hein, mais je pense que quand il arrivait dans le studio, en fait, ce qu'il avait à proposer était tout à fait pertinent. Par rapport à des musiciens, tu vois.
Et c'est lui, par exemple, qui a initié Erykah Badu aussi à la production. Elle l'avait raconté dans un Red Bull Music Academy. Elle avait une idée de truc, il fait bah vas-y, tiens, fais-le. Et en fait, c'est lui qui l'a un peu initié à produire.
J'espère que quand il était en session avec Erykah Badu dans le studio, il a pensé à noter pour avoir les points de compo.
Oui, on revient au drama.
Non. Là, il y a eu. Salman, il a eu un PTSD là. C'est vrai.
Absolument. Là, c'est. J'ai déjà entendu, alors je sais pas, peut-être que Fab ou Raph, vous pouvez valider ça ou pas, que Questlove, qui lui par contre apparaît dans les crédits, etc., a beaucoup bossé sur Voodoo, raconte qu'il a essayé justement de rendre le groove JD. De le rendre dans sa batterie, dans sa façon de jouer sur Voodoo, quoi.
Ouais, complètement.
C'est vrai.
Quel morceau pour illustrer?
Alors, j'ai un morceau pour illustrer. Alors, en plus, il n'y a pas déjà dit dessus, hein, mais parce qu'il y a une histoire, c'est sur Feel Like Making Love. Parce qu'il y a toute une légende autour de ce morceau. Écoutons déjà et après on en parle. D'Angelo.
C'est Roberta Flack, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement. Donc, reprise de Roberta Flack. Et alors, ce qui se raconte, c'est que donc finalement D'Angelo va l'interpréter lui-même dans l'album, mais on raconte qu'à la base ça devait être Lauryn Hill.
Tout à fait. Ça devait être un duo entre les deux, non?
En tout cas, voilà, oui, elle devait intervenir, ouais, interpréter.
J'imagine
cas,
qu'elle n'était pas à l'heure au studio.
Ça, je ne sais pas. Et il se raconte même qu'il devait y avoir Lauryn Hill et JD devait aussi apparaître normalement sur le morceau, devait vraiment participer au morceau. Finalement, ça ne se fait pas.
Mais typiquement, là, ce que j'ai proposé d'écouter de commun tout à l'heure, le Doing It, ouais, ce truc aussi du layering, c'est-à-dire d'avoir cette caisse claire qui est un peu un rimshot, etc. Et d'avoir le clap en plus. On l'entend très bien là-dessus, en fait. Ouais. Et ça, c'est enfin, ce beat-là, après ce qu'on a entendu de Doing It, c'est encore complètement du JD, quoi.
Et ça, Voodoo, c'est vraiment cette dinguerie qui se passe, c'est que t'as l'impression que les planètes s'alignent, il y a une comète passe, et qu'en fait, tout le monde se réunit à un endroit, à un temps donné, pour envoyer la dopeness la plus incroyable qui peut se passer. Parce que là, si t'écoutes, il me semble que c'est Spanky Alford à la guitare,
okay,
qu'on entend, qui était en fait, entre autres, le guitariste de Curtis Mayfield. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec cette équation de gens, ouais, qui sont genre juste contre trop de flow. Parce qu'en fait, au-delà de l'aspect technique, il y a vraiment un truc de sensibilité, c'est ça, d'émotion, c'est du de feeling, connexion. T'as Russell Elevado à l'ingénierie sonore derrière. En fait, ça, ce mix de gens qui bouillonnent et tout se passe. D'ailleurs, tout l'album Voodoo a été enregistré sur bande, je crois. Donc, t'as très peu de... Donc, la bande, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magnétophone à bande. C'est comme ça qu'on devait... enregistrer la musique à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la mobilité qu'on a avec les ordinateurs aujourd'hui, mmh, c'est-à-dire qu'en fait tu faisais une take et si tu t'es foiré sur ta take, le mieux que tu pouvais faire pour ça, c'était de manuellement couper les bandes magnétiques et les rabibocher. Donc ça, c'est un truc que tu apprenais dans les vieux studios à, exactement, l'ancienne. Et admettons, oh, j'ai un pain, il y a le refrain, on a raté, ben on va couper le couplet, on va le coller avec le refrain, voilà, bref.
Et ça revient beaucoup à la mode là.
Ouais, parce que le son, il se passe un truc dans le son vraiment incroyable.
Il y a moins de pertes.
Il y a moins de pertes, il y a un truc analogique, la distorsion incroyable. Et il y a une anecdote sur Voodoo d'ailleurs qui est assez marrante, c'est que t'as un track qui s'arrête très soudainement et en fait ils avaient plus de place sur la bande.
Mais c'est Untitled, non?
Je crois que c'est sur Untitled.
Ouais, ouais, la fin elle est...
En fait la bande s'arrête, ouais. La bande s'arrête.
Bon, on pourrait discuter du « il y a moins de pertes », mais passons à autre chose. Fab, toi c'est intéressant parce que toi t'es vraiment dans le milieu hip-hop. Mm-hmm. Est-ce que à ta connaissance, quand JD, quand ça commence à s'ouvrir, alors Voodoo il est pas dessus, mais à s'ouvrir avec les Soulquarians, les mecs du hip-hop suivent, ça fait partie un peu de sa légende, on comprend le truc?
Moi je vais te donner ma version à moi. Pour moi, D'Angelo, pour moi c'est hip-hop.
Okay.
Quoi qu'il arrive...
Oui. Depuis Blunt Sugar, en fait.
Pourquoi? Parce qu'il a des nattes couchées.
Voilà, c'est ça.
Je le savais.
Mais voilà, et plein d'autres qu'on pourrait citer, ou même des chanteuses qui sont sur des rythmiques, comme il dit. Tu vois, ouais, pour moi, c'est hip-hop. C'est cette consonance hip-hop qui a été reprise, même qui a été même chantée, mm-hmm, mais c'est hip-hop. Pour moi, D'Angelo...
C'est vécu comme tel par la communauté hip-hop.
Pour moi, ben oui.
D'Angelo, c'est tout le short que j'avais fait justement pour monter le son, pour lui rendre hommage. C'est-à-dire, comment en fait, D'Angelo est un chanteur R&B, mais hip-hop. Mmh. Il collabore avec Reza, il collabore avec DJ Premier et Easy pour un de ses remixes. Enfin, depuis très longtemps, dans son approche rythmique, c'est du hip-hop soul comme Mary J. Blige, quoi, en gros.
Ouais, oui, voilà.
Même sur Voodoo, hein, oui, sur Devil Spy, c'est Premier Primo qui fait le...
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Spy, ouais. C'est hip-hop. Pour moi, j'arrive pas à dissocier, je vais pas te dire c'est plus New Soul. Mais... Bon, pour moi, c'est hip-hop.
J'ai un exemple. Un truc qui a rien à voir. Bun B, qui est un rappeur d'un duo qui s'appelle UGK, était absolument fan de Slum Village, par exemple, et de leur album Fantastic Volume 2. On a écouté Climax tout à l'heure. Il adorait ça. Alors que c'est un mec qui vient de Houston, qui ont une tradition de rap qui est très particulière, et pourtant il adorait ça. Il fait, c'est super bien. Bon, après, il se faisait engueuler par Pimp C, parce que Pimp C, c'était un mec radical. Il fait, c'est de la merde ce que t'écoutes. On remet nos trucs du sud. Moi, je vais entendre des rythmes, etc.
Parce que Pimp C, quand il a entendu D'Angelo,
je parle de Slum Village.
Ah oui, d'accord.
Je parle de Slum Village. Quand il a entendu Slum Village, quand il entendait son pote Bambi écouter ça, voilà.
Parce que Pimp C, lui, il avait dit à un moment donné, il a croisé D'Angelo en studio, il a vu avec quoi il travaillait, il a dit, je devrais peut-être lire la notice.
Exactement.
Et ça,
c'est très vrai aussi, ouais.
Parce qu'il utilisait la même. Ouais.
Mais voilà, mais en tout cas, tu vois, typiquement pour des rappeurs du sud, les scènes sont très cloisonnées encore à l'époque. Donc oui, ça a des résonances en fait sur ce que fait JD. Déjà, ça tombe dans les oreilles de personnes en se disant, au-delà de cette communauté un peu, c'est pères fondateurs du rap, de la production, quoi. On les citait, les Pete Rock, etc. Il y a déjà aussi, ça commence à percer les frontières et des mecs disent, putain, c'est vachement bien en fait. Voilà.
Et comme on disait tout au début, ça reste encore du rap de niche. Mm-hmm. Tu vois, vraiment.
Mais pourtant, on a cité Busta Rhymes, The Tribe Called Quest, c'est pas de la niche.
Ça, c'est des. Allez, je t'en donne un, je t'en donne deux. Mais quand tu vois Slum V, quand ça arrive.
Et puis ça arrive de manière chaotique. Hein.
Bah ouais.
En fait, c'est un peu un des drames de la carrière de Jay Dilla. Tu le disais sur son côté un peu anonyme et resté un peu dans l'ombre, qu'il a voulu et en même temps, au bout d'un moment, qu'il n'a plus voulu, justement. C'est que Slum Village, ils ont galéré à sortir leur album. C'est-à-dire que ce Slum Village, le Fantastic Volume 1, dont les premières démos commencent à tourner au. Ouais, c'est ça, 94-95. Bah, ça sort vraiment jamais. C'est mis au tiroir du label sur lequel ils signent parce que, tu sais, c'est souvent les trucs d'industrie du disque. Ils signent sur un label qui finalement est racheté par un autre et puis la personne qui vient s'en occuper s'en branle. Enfin, bref, voilà quoi.
C'est
voilà, Shelf, exactement. C'est mis au placard. Et en fait, finalement, ils arrivent à trouver un deal pour sortir le Fantastic Volume 2, mais c'est au moment où JD est fâché avec les mecs et que le groupe est en train de se splitter. Donc, ça sort dans des conditions très particulières. Alors que c'est devenu un album complètement culte, quoi, le Fantastic Volume 2.
Pour une niche.
Pour une niche, exactement. C'est pour ça que je dis culte et pas classique. Ouais. C'est-à-dire que ça fait pas un espèce de consensus. Par contre, ça devient culte, quoi.
Est-ce qu'il arrive à conserver, quand il commence, il a des tubes à son actif, il traîne avec des artistes majeurs, Eric Abadou, D'Angelo, etc. Je sais pas. Il conserve ce côté underground, à côté à sortir des trucs complètement, qui passent sous le radar.
Toujours.
Tout, ouais. Bah, notamment, voilà, quand il va produire pour ses. En fait, à partir du moment où. Où ça marche bien avec les Soulquarians, que le Fantastic Volume 2 sort, il a un contrat avec une maison de disques où on lui propose un label, il investit dans un studio à Détroit, etc. Et c'est notamment comme ça qu'il va produire pour ses potes Freak and Dang, par exemple. Oui, et ça c'est resté complètement underground, surtout qu'en plus il y a une autre histoire sur cet album-là de Freak and Dang, c'est qu'il fait une première version avec des beats très dillesques, c'est-à-dire des trucs très filtrés, etc. Enfin son style à lui. Et en fait au bout d'un moment il dit au mec. En fait, ça me fait chier, on va tout refaire depuis le départ. Et il fait un truc très électronique, très épuré, un peu à la mode de ce qui se faisait à l'époque, mais avec sa patte touche à lui, voilà, qui claque, voilà, ouais. C'est ça. Mais en même temps, alors je sais qu'à l'époque, tu l'as connu mieux que moi à cette époque-là, parce que moi j'étais adolescent, donc j'étais pas, conscient de tout ce qui pouvait se dire ou se passer. Je sais que ces productions, elles ont un peu déçu. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris la démarche de Dilla sur le Freak and Dank.
Bah, personne. Voilà, c'est simplement qu'après qu'on a compris quand le morceau qui s'appelle Clap, je sais plus lequel là, qui est une tuerie, oui. En fin de compte, quand tu l'écoutes, tu fais oh.
Clap for me?
Non, c'était.
Non, c'est pas ça. C'est pas, tu parles pas de le morceau qui est sur. Ah oui!
Et ça, ça
faut m'aider, les gars. Si vous voulez qu'on le mette, faut m'aider.
Oui, je vais le chercher. Mais, alors, et du coup, je vais le chercher, mais je vais aller jusqu'au bout de cette démarche. C'est que, tu vois, sur ce truc de. Pour aller dans le sens de ce que disait Fab, sur. C'est un truc de niche. Ce style de Dilla au début des années 2000, où il commence un peu à se redéconstruire et à refaire des trucs, notamment avec son album Welcome to Detroit, mais aussi cet album pour Fat Cat, ça va être très influent dans la danse, par exemple. Ouais. Okay. Les breakers, enfin surtout la danse debout.
Danse debout.
Ils vont beaucoup en fait être sensibles à ce groove très particulier qui est très encore plus cassé en fait.
Ouais. Un truc proche du crump presque, je trouve.
Oui,
un peu, ouais. Mais c'est surtout que là, tu vois, il anime beaucoup plus ses caisses claires. Mm-hmm. Ouais. Ils sont beaucoup plus présentes sur le Frank and Dank. Ces caisses claires, elles font mal aux oreilles presque. J'ai l'impression que c'est du pitrock.
Ouais,
alors pendant que Raph cherche le morceau, Fab, dis-nous, on n'a pas parlé de JD le rappeur. À quel moment il s'y met? Est-ce que c'est un peu par défaut? Il y a des moments où il a des prods, il veut rapper partout. Enfin,
je pense que c'est pas par défaut. Je pense qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même. Et je pense que le mec a envie de. Il a plein de trucs qui traînent chez lui. Puis il se dit, bon, personne ne veut poser.
Il avait un timing particulier. T'entends quand il rappe comme il fait ses beats. Ouais. Genre, t'entends vraiment que le.
C'est vrai. Il y a un morceau où on l'entend rapper, qu'on pourrait s'écouter.
C'est plus sur des mixtapes, j'ai l'impression, des fois.
Ouais, alors attends, si j'ai rien en tête là.
Mais alors, c'est. Mais Fuck the Police, s'il te plaît.
Ouais, bah Fuck the Police, bah oui. Voilà. Ouais, j'y pensais tout à l'heure.
Voilà.
Là, c'est JD qui rappe.
Ah bah là, oui, c'est là.
Dédicace à la ICE.
Ouais.
Et on est sur.
Là, il est en colère.
C'est ça.
C'est sur l'album The Diary. Qui
sort plus tard. En fait, à la base, ça sort en maxi. En premier, ça sort en maxi. Plus tard, ce sera mis sur un album. Ouais.
Et c'est beaucoup plus tard que ce maxi de JD Fuck the Police devient culte. Parce que ça a mis du temps.
Bien sûr, complètement.
Il est déjà décédé lorsque ça devient culte ou pas?
Je pense.
Non, ouais, il est déjà décédé quand ça devient culte. Ouais, bien sûr. Tout est. Une fois qu'il est décédé, tout devient culte. C'est bizarre. Tout devient cultissime.
Allez, Fuck the Police.
The views expressed on this recording are solely those of the artist. And by no means do we encourage or condone violence against law officials. It's for you. It's for you. Yeah, it's for my street niggas. Feel it. On the count of three, say fuck the police. One, two, three, fuck the police. Yeah, fuck them. Applaud any nigga.
Damn right, I'm.
We could lose a few of them. We got enough of them. My niggas on the corner, they be dodging and ducking them.
Bitches getting pulled over, end up fucking them. For real. And see, now we got these fake cops. They thought he had a gun. Made a mistake, cops. I hate cops. Turn on the TV. Is this another cop busted from illegal business? They out of control. They out of their minds. They pulling you over. They hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. And they know when they mad when they can't find none. Stupid. Don't you know they giving it the stash box? The EB in it, need a key to get in it.
Voilà, typiquement c'est ce que disait Mono. Tu vois que c'était très animé dans sa manière de rapper, un peu saccadé, voilà, c'est ça.
Et pourquoi on... Est-ce que c'était un bon rappeur entre guillemets? Pourquoi il a pas plus rappé? Pourquoi c'est pas devenu un élément de sa carrière?
Je crois que son vrai truc c'était faire des beats et diguer surtout, parce qu'il aimait tellement ça diguer. Mais
je prends l'exemple parallèle, il est simple avec Kanye. Kanye, c'est un producteur de fou.
C'est une question de business.
Et le rap prend le dessus, ça devient un rappeur, Kanye.
Mais non, ça, t'as vu les docs sur lui? En fait, il y a
Genius,
je sais plus lequel, mais il y a vraiment ce truc où le gars, il s'est bataillé corps et âme pour se faire valoir ce statut d'interprète chanteur, là où en fait justement personne le prenait au sérieux et disait ah c'est le petit là, qui fait de la production là-bas, et le gars il a poussé. Je pense qu'il y a un moment, il y a beaucoup de ces questions qui sont
contrariées. Kanye West au départ.
Kanye West, c'est un peu ça.
Mais ce qui est pas le cas de JD.
Non,
je pense qu'il a pas poussé. Hein. Ouais, il a kiffé, mais il a pas poussé.
En fait, je pense qu'il aimait ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il aimait ça.
Mais il voulait pas prendre la lumière comme un interprète, non, tout simplement. Hein.
Il aimait ça, puis comme je t'ai dit, il avait beaucoup de prod, donc à un moment, il dit ah, personne ne veut poser là-dessus.
Ça s'est vu chez d'autres. Genre, je prends Ninth Wonder par exemple. Mm-hmm. À un moment donné, il avait un alter ego qui rappelait, qui s'appelait Ninthmatic. Bon,
ça n'a pas fait long feu, hein, par contre.
Non, parce que...
Pitrock, un peu
ouais,
pareil.
Ouais, en fait, c'est les mecs, ils essayent, ils se font kiffer, en fait. Après, je pense que... Alchemist aussi.
Oui.
Alors, Alchemist, il rappait au début. Après, il a fait que des beats pendant 30 ans. Et là, maintenant, il se remet à rapper.
De temps en temps, tu vois, il aime bien, mais je pense que c'est pas leur raison d'être, quoi.
Non, mais ils savent faire. Je pense que c'est l'émulation. Je veux dire, quand on est en studio avec des monstres.
C'est ça.
Tu dis, bon, allez, je vais poser un 16.
Alchemist, t'as bossé avec Jadakiss, Prodigy, machin. Ça doit te chatouiller quand t'as rappé un petit peu. Voilà, ça te challenge. Mais je pense que oui, JD, en fait, il aimait ça. Et puis, il avait, même si effectivement, c'était pas un rappeur ultime, il avait ce petit truc particulier à la fois rythmiquement, mais aussi dans ses angles de morceaux. Un morceau comme Fuck the Police, c'est un truc où il subit. En fait, il gagne en statut social, il gagne un peu d'argent, il change de quartier. Et en fait, dès que tu changes de quartier aux États-Unis, t'as beau être quelqu'un qui gagne un peu d'argent, quand t'es un homme noir à Détroit et que tu vas dans un quartier,
la police,
en fait, il se faisait harceler par la police. Ils arrêtaient pas de le contrôler, ça lui a cassé les couilles, il a fait le morceau. Il y a un morceau que j'adore de lui. Ce qui est intéressant, c'est quand il rappait sur les prods d'autres mecs. Il y a un producteur il y a un producteur qui est contemporain de lui et il se respecte énormément tous les deux. C'est un mec qui s'appelle Notes, qui vient de la Virginie. Et il y a un morceau qui s'appelle
Common.
Qui a produit pour Common, qui a produit pour Busta Rhymes, qui a produit
pour Little Brother aussi.
Il a produit pour Snoop, il a produit pour plein de gens. Notes, c'est un producteur exceptionnel. Et c'est aussi quelqu'un qui n'était pas dans la cantine. Je pense que bref, ils se comprenaient tous les deux. Ils sont à peu près la même génération, ils se comprenaient. Et en fait, il y a un morceau qui s'appelle The Shining, qui est sur l'album The Shining d'ailleurs, qui sort bien plus tard. Et c'est une prod de Notes pour Dilla, et j'adore cette prod de Notes qui est chambée et comment en fait Dilla rappe dessus aussi. Yeah.
Bling bling. Keep me on shine while I make the ching ching. You so precious like a burst of joy. I heard your boy Jacob got the best shit. You so hot, you make me hot, boy. And he got you round the whole watch, boy. It's so expensive, but well worth it. I heard it's a dealer that rents 'em. It's so ugly when the ice lit. You with me, the feeling is priceless. You so beautiful when you in the robe. It's something awful what it do to the pros. You ain't guessing, you ain't listening. I'm flossing with my girl's best friend. Shining with my girl's best friend. I'm blinding with my girl's best friend.
When I praise him in the sky, shine so bright it'll blind your eyes.
So bright.
Comme Common un peu.
Je pense que ça a dû l'influencer peut-être un moment.
Bien sûr, quand même.
Il avait fait ça avec Madlib aussi dans le passe-passe entre instru de Madlib, flow de Dilla.
Sur Jlib.
Ouais.
Sur Jlib.
Bah, sur Jlib.
Ah oui, parce que alors, on va pas s'écouter un extrait. C'est vrai que tu avais cité, tu disais que pour toi c'était un des trucs les plus forts, Madlib, Jdilla. Ah bah, c'est sur, y a un, c'est un album précis.
C'est un album Jlib.
C'est Jlib. Godzilla contre.
C'est ça. Complètement. Ça sort en 2003. Okay. Enfin, 2002-2003, j'ai un doute maintenant. Ouais, okay.
Ils ont fait 2-3 scènes et après.
C'est ça. En fait, ils se rendent compte et ça match parce que tous les deux, c'est des diggers de folie. Ils aiment ce côté accidenté dans les prods. Différemment chez Madlib, le côté un peu inabouti qu'on entend chez Madlib.
Ouais, ouais,
voilà, c'est ça. Mais ils se rencontrent et en plus ils se challengent parce qu'en fait ils font des prods un peu électroniques sur l'album. Et même Madlib qui dépouillait de plus en plus ses prods fait des trucs hyper bourrins. Il y a le morceau sur le strip club, là, comment il s'appelle ce morceau,
Malfixi,
qui est une prod de Madlib. Qui détonne complètement avec ce qu'il fait à l'époque, typiquement avec MF Doom par exemple,
ouais.
Et qui a un morceau qui est dans l'esprit un peu plus JD. Et j'aime beaucoup comment ils se challenge tous les deux, parce que même du coup JD, il essaye de faire des trucs à la Madlib l'album, mais à sa façon. Et donc ils se donnent les beats les uns les autres. Quoi.
Bon, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Mm-hmm. On s'est arrêté sur le JD rappeur qui rappe même sur des prods de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. On va revenir au pur JD beatmaker en parlant de Donuts évidemment.
Et oui.
Alors là, il va y avoir fight.
Évidemment.
Mono, il va peut-être commencer sur Donuts et après Fab, il fera les grilles.
Non, mais après, je peux comprendre ce qui s'est passé sur Donuts, mais c'est moi, en tant que DJ, quand je l'ai pris, l'album, je l'ai eu dans les mains directement, bien avant tout le monde, et j'ai fait, bon, bah oui, c'est des loupes.
Ouais, mais des belles loupes.
Des trucs infinis, toi. Moi, j'attendais un truc plus fini, parce que si tu regardes le vinyle, c'est des petits sillons comme ça, c'est des plages comme ça. Je me dis, 1 minute 2, 1 minute 3.
Ouais.
C'était pas intéressant, toi. Bon. Mais par contre, ça a fait un surcarton.
Ouais. La spécificité de The Nuts, alors il y a 31 morceaux.
Ouais, c'est ça.
Bah, tu vois.
Qui effectivement font entre 1 minute et 1 minute 30.
C'est une beat tape.
Ouais.
Alors juste on précise, on va en parler ensuite. Donc beat tape, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le dernier album qui sort de son vivant.
Qu'il a fait à l'hôpital, je crois.
En fait, c'est ça.
Quelques mois plus tard, il décède.
En fait, c'est un truc. Pendant qu'il est malade et qu'il fait des allers-retours à l'hôpital, il commence à investir dans du matériel un peu plus léger, du coup. Et il fait ses beats, en fait, comme ça. Effectivement, je pense très inspiré par ce que fait Madlib. Les beat tapes, c'est des trucs qu'il fait depuis très longtemps. En fait, tu le sais mieux que moi.
Les beat tapes, c'est quoi? C'est on enchaîne les instrus.
Les beat tapes, en fait, c'est les instrus, les démos d'instrus que tu files.
Que tu files à des rappeurs.
Et en fait, il y a des espèces de beat tapes de JD là, comme ça, qui sont devenus cultes, qui ont tourné, qui sont devenus des espèces de fan favorites, etc. Et en fait, il fait des beat tapes. Et comme lui, il a des problèmes de santé, notamment liés à son foie, etc., il peut plus manger n'importe quoi. Il doit faire attention à ce qu'il mange. Et donc, du coup, il fait des beat tapes qui ont des noms de junk food. Pizza, Burger King, ce genre de trucs, et aussi Donuts. Et en fait, l'histoire qui est racontée dans le bouquin, c'est qu'une fois, il tombe sur ces fameux beats, en fait, qui vont devenir pour certains, un certain nombre d'entre eux, ceux de Donuts, et au sein du label de Stone Throw, sur lequel il y a notamment Madlib. En fait, ils se disent, mais c'est super bien, on devrait peut-être en faire quelque chose de ça. Et en fait, un mec du label qui s'appelle Jeff Jenk, dit bah.
Quel directeur artistique ou un truc comme ça?
Je crois que c'est quelque chose dans le genre de mémoire. Et il dit bah, si vous voulez, je peux essayer d'arranger le truc, d'essayer de séquencer, de donner une logique, etc. Et c'est comme ça que naît cet album qui finalement va effectivement sortir, je crois que c'est quelques jours avant ou après son décès.
Ouais.
Hein,
c'est vraiment à quelques
en fait,
jours.
La sortie est posthume, mais il a tout fait de
voilà, exactement. Et en fait, c'est Jeff Jenk qui arrange le disque en fait et qui le séquence, mais tous les beats sont faits de son vivant évidemment par Jay Dilla. Et en fait, ce qui est une interprétation posthume, c'est que il y a des messages cachés en fait dans des titres, dans certains bouts de voix qu'il laisse à sa mère, à ses deux baby mama, parce qu'il a jamais vraiment été marié, je crois, mais il a eu des enfants avec deux femmes différentes, à ses enfants aussi en fait.
En même temps ou les deux femmes ou
oui en fait
successivement.
En fait c'est ça, il a eu deux aventures en fait, il a eu une officielle à un moment donné, une autre compagne qui se sont jamais croisées, et c'est malheureux, mais c'est après sa mort qu'elles se sont rencontrées. Bref, bon, ça, c'est des espèces de drames un peu familiaux, voilà. Mais et en fait, il y aurait des messages cachés comme ça dans l'album, dans certains samples de voix, etc. Alors peut-être que c'est un peu la mystique a posteriori de l'album qui est racontée comme ça, hein, mais voilà.
Si je me fie aux dates que j'ai trouvées, JD Dilla décède le 7 février. N'importe quoi, c'est la date de naissance, pardon. Le 10 février 2006, l'album est sorti le 7, justement, 3 jours avant.
Il
meurt ensuite, ouais.
Et nous, on le fait au Nouveau Casino 2 jours avant.
C'est complètement fou, parce qu'il naît un 7 février, il meurt un 10 février. Ouais. Autre personne qui, en plus, est morte hyper jeune. On parlait de Nujabes tout à l'heure. Oui. Nujabes est né exactement le même jour que Dilla, de la même année. C'est fou, il y a des histoires. Tu parlais du signe astral, ouais. c'est complètement fou. Mono, Donuts. Comment tu te le prends?
Moi, en fait, justement, pareil, au début, quand je le prends, c'est pas que je me le prends pas, mais c'est qu'en fait, mon attention est pas forcément centrée sur celui-là, parce que je me prends toute la discographie d'un bloc. Okay. Donc, je vais plus sur son travail. Ce travail du début, mais en fait, moi, cet album, c'est vrai que il m'a choqué. Ça donne envie de pleurer, en fait. Le morceau Bye, là, où il parle à sa mère.
Avec le sample de
Maybe 3 Degrees, non,
c'est pas ça. Ouais.
Ça, c'est trop, en fait. Le mec, en fait, ce que j'entends, moi, c'est quelqu'un qui souffre, qui n'a plus vraiment de voix et qui utilise les moyens les plus rudimentaires pour exprimer ce qui arrive. Des choses qui peut-être il aurait pas réussi à dire à sa famille de vive voix à un moment critique, tu vois. Et je pense que ça, c'est un contenu émotionnel qui est tellement fort que ça m'étonne peu que ça ait autant rayonné. Mmh. C'est très très fort ce qu'il y a dans ce disque-là.
Et est-ce que ce qui est remarquable, ou qui était remarquable pour beaucoup de gens dans ce disque, c'est aussi donc ce contexte, ce sens, etc., ou c'est aussi d'un point de vue technique, c'est le summum de J.D. là, pas forcément?
Non, c'est pas le summum technique. Par contre, il y a un truc technique dans la simplicité qui est incroyable, dans la mise en place et l'arrangement des boucles, c'est que des fois ça décélère, des fois ça accélère. Il va prendre des phases assez classiques, mais en même temps, le son, il est un peu bizarre. On entend effectivement l'influence de Madlib, dans le sens où je crois qu'il a dû composer ça sur la SP-303, peut-être, ouais, qui est un sampler...
Voilà, bah c'est ça. Voilà, quand je parlais de matériel plus léger, c'est ça.
Voilà,
ouais.
C'est ça, qui a un son particulier, qui est aussi le son que tu as sur les MF Doom, justement. Il y a une compression...
Il y a aussi du sidechain, par exemple, sur certains trucs. C'est
la compression...
Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, des fois, il y a des grosses caisses qui tombent, et en fait, le son derrière, il est pompé, il est un peu effacé.
Ça, c'est dû à la machine.
Il y a aussi... Enfin, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué aussi dans cet album, c'est le chopping de samples et le réarrangement. Parce que justement,
sur certains morceaux, oui, c'est là où il y a toute la science.
Je pense à Working On It, par exemple. Don't Cry,
en plus, le mec qui te met en début de morceau le sample original, l'original, et après il te le découpe et il te rejoue un truc où tu dis, ah ouais, le mec, il était trop fort.
Je sais pas si c'est sur Donuts qu'il y a le sample de Curtis Mayfield, Suffer. Mais en gros, il y a un principe dont je voulais parler, qu'il a pas mal utilisé, Dilla aussi, c'est cette idée de... Il a réussi à prendre certaines intros de certains sons de soul et il va spécifiquement donc prendre un bout, le couper sur son sampler, et en fait, il va virer tous les endroits où on entend de la voix et il va recréer une instrumentale avec des bouts interposés. Okay. C'est-à-dire que t'entends un morceau de Curtis Mayfield où en fait, Curtis, il fait de la voix, il chante, il interprète, etc. Et lui, il va couper tous les moments où on l'entend pour recréer une instru avec des bouts de l'instru sans avoir à... Tu vois, aujourd'hui, on peut faire AI, etc. On peut isoler le stem.
Le stem, c'est fini. Hein, il a arrêté là.
Et ce qui est formidable, c'est que ça a inculqué un style de cutting dans le sample où t'entends la fin des respirations, des phrases. Et Kanye, sur pas mal de morceaux, il a utilisé ce genre de truc. C'est un truc qui est resté dans la production musicale dans nos années actuelles. C'est tu samples et t'entends le tu vois, des petits trucs. Tu peux retrouver même dans l'hyper pop ou dans les trucs comme ça aussi maintenant, tu vois,
à fond. Bon, on va pas pouvoir s'écouter tout de Nuts. On a déjà cité Bye, Don't Cry, Working On It, un ou deux morceaux quand même.
Don't Cry, les gars.
Don't Cry, ça vous irait?
Allez, let's go. Allez,
on s'écoute un extrait quand même. Don't Cry.
I'll show you how my voice has made an unbelievable thing good.
Oh, okay, Joy. Baby,
c'est fou. Il laisse le son.
Là, on entend le cut de la voix. Et il y a un autre détail aussi que j'ai envie de pointer. Tu entends la basse. C'est la basse originale du sample, mais en fait, la manière dont il a chopé,
ça change la mélodie en fait.
Ouais, même plus que ça, ça aurait pu être une basse qu'il a composée en faisant un truc à la pit rock à l'ancienne sur son sample. C'est-à-dire que on dirait presque qu'il a tapé, mais en fait, il a eu le même résultat en le samplant d'une autre manière. Tu vois, et en fait,
ce qui est important, filtres en fait, c'est ça.
Non, même non, pas. C'est juste en fait le chop. En fait, du coup, quand tu vas slicer ton sample, la basse des fois, elle va pas arriver au début de là où t'appuies. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, il a réutilisé le sample et ce qui transparaît de la basse aurait pu être un truc qu'il a fait et il se l'est réapproprié alors qu'il a pas énormément modifié les choses, mais on entend sa touch, tu vois.
En fait, il y a une vidéo de Vox qui est super intéressante, notamment sur ce morceau, donc qui parle en fait de la MPC qui est au Smithsonian. La MPC de Dilla, elle est au Smithsonian
tout à
Museum
fait. Ouais, tout à fait.
À Washington DC, et ils prennent ce morceau en exemple pour justement la science du chopping, alors que nous on parle justement sa façon de poser les basses, etc. Mais en fait, le découpage de samples, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il te montre l'onde, et après, il te montre avec des couleurs différentes.
À quel endroit,
tous les endroits qui sont sélectionnés, et puis comment lui, il les rejoue, et ça te crée une nouvelle mélodie, en fait, et c'est trop fort.
Il y a du super contenu sur YouTube, parfois sur Insta, etc., où effectivement, tu vois les formes d'ondes et comment ça a été chopé et tout, y compris, je sais pas, pour du Daft Punk, des trucs comme ça, etc.
Ouais,
c'est
toujours
c'est hyper intéressant.
C'est super pointu d'ailleurs maintenant, parce qu'il y a vraiment des samples qui ont été retracés, ou des fois, c'est dur, parce que c'est vraiment
c'est du micro sampling, quoi. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il est devenu culte, ce disque-là, quoi.
Fab, toi, tu disais que tu as un rapport un peu plus mitigé à cet album.
Moi, quand je te dis, j'ai pris cet album, comme je suis DJ, donc le Donut, je le prends dans mes mains, je me dis, je vais en faire quoi, toi ?
Tu vas faire jouer les originaux, limite.
À limite, je me dis, oui, mais même pas, j'y pense même pas, tu vois. Je suis là, je l'écoute, je fais, ah ouais, mais bon, bah, c'est des loops, ok, cool. Ça va pas plus loin ? Ok, allez, next. Je préférais son travail beaucoup plus pertinent sur plein d'autres choses. Et même si c'était le dernier album, bah, je me suis dit, pourquoi il y a un engouement sur ça? Et encore, quand je l'ai pris dans la main, il n'y avait pas encore d'engouement. Le truc est sorti, album de Donuts, ok. C'est 2 ans ou 1 an après que les gens ils se battaient pour avoir le Donuts, pour avoir le truc. Je ne comprenais pas, et je l'avais chez moi, ok, il est là. Mais bon, après, je comprends tout à fait le travail, et j'entends tout ce que vous avez dit, et je le comprends, et je suis animé pareil, hein. Pas de problème, mais c'est juste parce que moi je suis DJ, que tu vois, j'ai besoin de plus de matière.
Est-ce que par hasard, si je t'empruntais ton vinyle, ça te dérangerait ou...
Oui.
De toute façon, tu l'aimes pas trop.
Mais en fait, pour la petite histoire, l'album The Shining, donc qui est son deuxième album posthume, du coup, qui sort fin 2006, c'était vraiment son album qu'il espérait être l'album qui lui ferait justement péter un peu un plafond de verre. Parce qu'il avait sorti un premier album à son nom, Welcome to Detroit, dont on en parlait tout à l'heure, la pochette dans le strip club, qui sort en 2002 chez le label BBE. Voilà. Où en fait, il propose à plein de. Des carte blanche à plein de producteurs, à Pete Rock, à Will.i.am, à DJ Spina, plein de chants comme ça, qui est resté plutôt confidentiel, qui est un super. Pour moi, c'est mon disque préféré de
The Shining.
Je parle de Welcome to Detroit.
Ah, pardon, ok.
Et en fait, pendant qu'il est malade, il travaille aussi sur The Shining, qui a un album sur lequel il y a Common, il y a Busta Rhymes, il y a plein de gens, quoi. Et finalement, bah, ça sort bien plus tard, et bon, après son décès, quoi. Mais c'est pas Donuts. En fait, il avait. Donuts, encore une fois, c'est des très bons beats, mais qui sont.
Work in progress.
Mais c'est un work in progress, voilà. et c'est Stone Throw, en fait, qui arrive à en faire quelque chose, quoi.
Voilà.
Et en même temps, je pense que pour plein de beatmakers, pour plein de musiciens à la maison, pour plein de home studios, etc., d'avoir accès à cette matière, qu'elle s'enchaîne comme ça, et même à cette espèce de dépouillement. Il y a des morceaux, mais j'ai envie de les mettre en boucle.
Mais tu vois, quand tu parles de Donuts, il n'y a que lui qui peut arriver à comprendre réellement.
Tu parles de mono, tu parles de mono.
De mono, ouais. Il n'y a que lui, enfin tu vois, même moi aussi je comprends, mais je ne suis pas aussi pertinent que lui sur là ce qu'il a voulu faire, comment il a voulu faire, tu vois. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le prendre comme ça. Mono, il est...
Il est possédé.
Je pense qu'il y a un truc émotionnel aussi.
Oui, non, mais c'est pas néfaste.
Dans lequel tout le monde peut se retrouver.
Il y a un truc, ouais, tu vois, qui est au-delà de... Bon là, tu vois, on parle, on conscientise les choses et tout. Il y a un moment où... La musique parle d'elle-même.
Bien
quoi.
Sûr,
je pense que l'émotion, c'est quelque chose qui a touché énormément de gens. Je pense que ça se sent qu'il y a quelque chose de chargé. Après, pour arriver à recevoir la musique en tant que personne, je pense que c'est une question de la période où ça t'arrive dans la vie.
Ah, complètement.
Et le contexte dans lequel tu découvres cette musique, parce qu'entre être dans son canapé et être dans le métro, c'est deux expériences différentes. Ouais. Et t'as besoin d'un certain contexte pour... comprendre certaines choses. Moi, perso, ça m'a... j'ai mis du temps à rentrer dedans, mais quand je suis rentré dedans, j'ai senti un truc qui m'a beaucoup parlé émotionnellement. Ouais.
Mais je pense que J.D. était très émotionnel donc dans tout, dans toutes ses prods, dans tout ce qu'il a fait, que ce soit, même si on est passé vite fait avec Jelly, Madlib et J.D., c'était que de l'émotion. C'est les deux là. Quand,
bah, The Red, quand tu écoutes une prod comme The Red par exemple, c'est de l'émotion pure. C'est une émotion pure, The Red.
Bien sûr.
Pour moi, c'est un producteur, un peu d'ailleurs comme DJ Premier, qui est globalement easy listening, entre guillemets, qui peut toucher facilement, je trouve, les gens quand même.
Primo, il a compris le business. Depuis trop longtemps, donc il est devenu primo. C'est plus aujourd'hui, j'ai rien, je peux absolument pas critiquer Primo, je le ferai pas. Mais il y a des fois, j'entends des prods de Primo, je dis, oh, c'est pas
après fou. Q-Tip, tu veux nous casser aussi, Primo?
Non, pas du tout. Primo n'a jamais volé des samples à qui que ce soit, toi.
Contrairement à
non, mais alors ouais. Allons-y, puisqu'on y est, on peut terminer le podcast là-dessus. Le plus grand, pure production. Alors, parce que, ok, on a cité J.D. là. Mais est-ce que par rapport à un DJ Premier, un Dr. Dre, un Madlib, un Reza, un Alchemist...
Premier, c'est pas un beatmaker. Non, Dre, c'est pas un beatmaker.
C'est un mixeur.
C'est
Ok, donc on l'élimine des...
On élimine.
Ok.
Alchemist.
Moi, à titre personnel, c'est Reza.
Ok.
Parce que Reza, il avait un son un peu accidenté. Et parfois qui jouait sur des espèces de micro-timing aussi, comme dit là. Il était complètement barré. Enfin bref, la manière dont il s'adaptait à chaque rappeur du Wu-Tang... À titre personnel, pour moi, le voilà.
C'est oui, parce que Fab, évidemment, on rigole un peu avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur, on le sait bien, mais genre, si on doit argumenter un peu sur les trucs qui
je cherche
et tout.
Mais comme moi, j'ai été vraiment fan de toute cette culture, j'en ai tellement qui me sortent dans la tête, qui m'ont amené à ça, comme je te parle de Marley Marl, de Pete Rock, je te parle de Primo, je te parle de Dilla, je te parle de. Tu vois, ils m'ont tous amené quelque part.
Et encore là, ils bloquent, ils s'arrêtent au Grand Lac. Hein.
Ouais,
il y a tout le reste des États-Unis.
On sent qu'il y a une petite époque.
Mais tu vois, tous ces mecs-là m'ont amené quelque part. Quand j'ai compris Primo, il dit, ah ouais, mortel. Ah merde, Dilla, ah merde. Tu vois. Et ainsi de suite. Et ça a amené, en fin de compte, ça mène une chaîne continuelle où quand tu me dis le meilleur, même Reza m'a amené quelque part, je me dis, je peux pas dire le meilleur.
Ouais. Alors ton préféré?
Je peux pas.
Bono, moi je serais allé avec humour, légèreté, un truc, mais si tu dois.
je serais allé plutôt du côté des influences de tous ces gens-là, à savoir pas mal des vinyles qu'ils ont samplés.
C'est la soul.
Et tu vois, moi par exemple, une influence que je sors énormément en ce moment quand je travaille sur des disques, c'est les Maisel Brothers par exemple.
Ah ouais, okay.
Tu vois, dans le sens où je pense que tout cet univers de beatmaker, de producteur, productrice, il y a souvent des noms qui reviennent. Tu vois, par exemple, on parlait de Tribe Called Quest tout à l'heure, il y a Ron Carter à la basse, le contrebassiste. Et en fait, tu as des noms comme ça, Roy Ayer, quand il était sur certaines prods, le Ethel Betty là, que NTM avait samplé sur Tout n'est pas si facile, ou en fait, tu vois que c'est Roy Ayer derrière la prod.
Tout à fait.
Il y a des choses, dans l'ingénierie du son, il y a des gens comme ça qu'on... comment ils s'appelaient ceux dans Blue Note, là, il y avait des frères... Non, c'était pas des frères... Je sais, j'ai oublié leur nom, mais bref, il y a des choses comme ça. Et Maisel Brothers, je vous invite à regarder énormément, parce qu'en fait, c'est des noms qui ont donné énormément de...
On bossait avec Donald Byrd, notamment, c'est ça?
Ouais, Donald Byrd. Bah, Think Twice, tu vois, parallèle avec J.D. La, J.D. La, qui était, en fait, le morceau avec Dwelly dessus, je crois.
Oui, tout à fait.
Think Twice, et en fait, les producteurs...
Sur Welcome to Detroit.
Voilà, et les producteurs de Think Twice, à la base, c'est les Maisel Brothers, tu vois. Gary Bart aussi, etc.
Elle est intéressante, ta réponse, parce que ce que ça illustre, et c'est aussi ce que dit Fab d'une certaine manière, c'est que J.D. là, le rap, le hip-hop aussi s'inscrit dans une espèce de continuité musicale, de la musique afro-américaine, de la musique mondiale aussi, mais en particulier quand même de cet héritage afro-américain. Là, on part du jazz, on va à la Native Tongues, qui donne aussi, et puis il y a aussi D.L.A., puis D.L.A., il renonne au jazz, on en a parlé, Raph, ce que peut faire Kendrick aujourd'hui.
Sur l'album To Pimp a Butterfly, il y a une immense influence de Kendrick Lamar chez tous ces musiciens, Kamasi Washington, Thundercat, etc. Knowledge, qui est un producteur aussi qui est très influencé par D.L.A., qui a des prods sur ce disque-là. C'est immense. Tout à l'heure, tu citais un groupe comme Hiatus Kaiyoti, qui est un groupe australien, mais Kate Renada, dans son approche de la house, du broken beat, etc., il est extrêmement aussi influencé par D.L.A. Donc effectivement, ça n'a jamais été une star, ça n'a jamais été un mec qui a fait des tubes à la Dre ou à la Timbaland ou à la Neptunes, etc., qui sont ses contemporains. Par contre, son influence, elle est très diffuse jusqu'à des artistes, Flea des Red Hot, tu le citais en intro, Flea des Red Hot, qui est ému aux larmes quand il réécoute des prods de D.L.A. Donc c'est
ultra, ultra pour eux.
En fait, on peut dire que D.L.A., il a peut-être pas écrit si on fait un parallèle, il a pas écrit un truc comme un Victor Hugo, comme un Émile Zola. Par contre, il a fait la grammaire. Mmh. Tu vois. Et donc en fait, son art à lui, il est utilisé par tous les autres. Mmh. Et donc c'est la colonne vertébrale du truc. Même s'il a pas de méga banger, en fait, il est partout, tout le temps. Tu vois. Parce que
il a complètement réinventé des codes en fait, qui font que c'est repris.
Rythme, le Dilla Time.
Le Dilla Time.
Mmh. Lisez ce livre si vous lisez l'anglais. Mmh. Dan Charnas.
Ouais, si vous avez l'occasion, et puis peut-être qu'une maison d'édition en France aura le courage. L'opportunité, c'est ça,
et le courage
d'aller au bout et de le faire. Mais si vous lisez l'anglais, c'est passionnant parce que tout ce truc justement d'approche, d'analyse musicale, c'est pas chiant, c'est pas technique, et ça raconte très bien toute l'inventivité, le génie de Dilla.
Bon, Daz, je pense que les gens ont de quoi écouter.
Ah oui, là,
je pense qu'on peut faire sauter les recos. Ça fait déjà un peu plus de 2 heures qu'on enregistre. Normalement, on termine toujours avec des recommandations musicales.
Mais là, on les a passées pendant l'émission.
Exactement. On vous invite. D'ailleurs, on parle du Rocco. On a une playlist. Pour l'instant, elle est que sur Spotify. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit sur d'autres plateformes aussi. Vous tapez monte le son dans votre plateforme. En l'occurrence, là, juste Spotify pour les recommandations. Vous allez tomber sur la playlist avec toutes les Rocco, y compris celle d'ailleurs de l'épisode, tu sais, spécial Rocco qu'on a fait le dernier.
Oui, tout à fait. Celui avec de la musique d'intelligence artificielle. Là.
Exactement. Et puis. Puis il ne resterait plus qu'à remercier tout le monde.
Oui.
DJ Fab.
On rappelle du coup. Ah bah oui, mais l'épisode sort quand?
Ça sera avant. Si vous voulez aller le 6 février au New Morning, vous verrez Fab.
Ouais.
Et puis voilà, rendre hommage à JD avec.
Avec Fat Cat, DJ Days, ex-DJ aussi de Slum V. Donc beaucoup de. Et puis un batteur, je ne sais plus qui sera là. Enfin, on va essayer de rendre un bel hommage à JD. Et voilà, donc venez au New Morning, c'est le 6 février, organisé par Free Your Funk.
Super, merci encore Fab d'être venu.
Voilà.
Raph, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci.
Merci aussi d'avoir suggéré qu'on traite, qu'on parle de JD, notamment avec les gens de Free Your Funk qu'on salue effectivement. À l'occasion de cette soirée, on s'est dit que ça peut être effectivement.
Ouais, très cool.
Que c'était pertinent de faire ça. Mono! Trop bien, merci.
Ouais, trop bien, merci à vous.
Oh, mais ça s'est fait un peu dernier moment et tout.
Ouais, j'adore, franchement, ça fait plaisir, merci.
À quand un album?
Magnifique.
Là, c'est dans les rouages.
Ah, vraiment, en mode solo.
En mode solo, c'est cette année là, ça arrive. Ouais, je suis dessus là.
Trop bien, on va suivre ça. On vous remercie vous aussi évidemment, auditeurs.
Merci, Toman Senpai.
Je vous pose pas la question, Mono. Ça t'arrive d'acheter chez Toman?
Pas plus tard qu'il y a un mois, je pense.
Bon, voilà, Fab.
Ah bah ouais, moi j'ai.
Alors Raph, je sais pas si tu achètes régulièrement, mais je sais que tu as un projet, que tu veux acheter un truc.
J'ai un projet, ouais.
Faut que je m'en occupe, il faut que je regarde.
Bon, on s'en parle.
Ouais, très bien. Et puis Badaz, merci beaucoup.
Merci
François qui monte cette émission.
Merci La Bouclette.
Ouais.
Et merci La Vie, j'ai envie de
merci
dire.
Merci La Vie.
Et repose en paix avec Albo.
Absolument.
Évidemment.
Je glisse un petit truc pour ceux qui sont encore là. Si vous êtes là, c'est que vous adorez l'émission. Alors déjà, vous laissez un commentaire sur YouTube si vous regardez sur YouTube.
Gentil.
Idéalement, les petites étoiles sur le podcast. Vous savez, si vous regardez Apple Podcast, Spotify, peu importe, un maximum de commentaires et d'étoiles. Et puis, figurez-vous que si vous diguez un peu le lore monte le son, on avait ouvert un répondeur pour la 100e. Ce répondeur est toujours ouvert.
Ah bon? Ok.
Et les gens peuvent laisser des messages. Alors, ce qu'on va faire, je pense, on va instituer. Je vais mettre le lien, tu vois, à chaque épisode. Et de temps en temps, on écoutera les messages. Je sais qu'il y en a déjà.
Commentaires de rageux.
Je sais qu'il y en a déjà.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
On les écoutera de temps en temps. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, on se retrouve dans 15
jours. Dans 2 semaines, évidemment.
Ouais. Nouvel épisode, nouveaux invités. Nouvelle invitée, peut-être solo, je ne sais pas.
Oh, je sais déjà, mais je vais faire comme si je ne savais pas. Oh là là.
Allez, à dans 15 jours. Merci. Ciao.